Bonsoir et bienvenue dans la séance du dimanche. Dans cette nouvelle saison, c'est désormais une heure et demie par mois que nous parlerons de cinéma sur les ondes de Radio Campus Paris et en podcast. Avec toujours des débats, des jeux et des musiques, aujourd'hui autour de l'incontournable Matrix des sœurs Wachowski. Une nouvelle saison avec toujours une équipe de choc, celle du collectif Vitamine Ciné, et commençons cette nouvelle année sur de bonnes bases avec des présentations personnalisées. Je sais que vous adorez ça. Alors aimer Jean-Pierre Léo, Agnès Varda et Bertrand Bonello ne l'empêche pas d'être transi de True Blood qu'elle revoit inlassablement chaque année, ni de nous proposer un film bollywoodien pour une prochaine émission. C'est l'incorrigible Adeline, bonsoir.
Bonsoir, mon cœur frétille à l'entente de True Blood prononcée de cette façon.
Ça ne m'étonne pas. Ensuite, je l'ai vu s'indigner cet été face à l'attribution non méritée d'une palme d'or et à la prestation bovine d'un acteur français, défendant corps et âme le cinéma qui lui plaît, s'insurgeant contre celui qu'il trouve médiocre. Je ne sais pas s'il est flic ou voyou. Bonsoir Lucas.
Bonsoir Nicolas.
Pour changer de l'habituelle présentation le liant à la cité phocéenne, je vais le décrire avec les adjectifs d'une autre ville, ensoleillée, carnavalesque et dépaysant. Je parle évidemment de l'homme de Rio, ou plutôt de l'homme de Vélizy, Villa Coublé. Bonsoir Louis.
Bonsoir Nicolas, et très très content de revenir pour cette nouvelle saison.
Et ben moi aussi. Et enfin le dernier membre, qui manie les tables de mixage comme d'aucuns manient le Beretta, règle les problèmes techniques avec une vitesse sidérante. C'est notre fournisseur officiel de bons sons, notre dealer de 12 bonnettes, le professionnel Victor. Bonsoir Victor.
Bonsoir Nicolas, merci beaucoup pour cette superbe introduction.
Eh bien, comme vous l'avez compris, nous ne pouvions pas commencer cette émission avec un hommage, sans un hommage plutôt, à un acteur disparu un jour de septembre à l'âge de 88 ans.
C'est pas, contrairement à ce qu'on peut croire, la vie de Pierrot le Fou. Le fameux Pierre Loutrel, ça n'a rien à voir.
Le côté non-conformiste du personnage doit vous plaire.
Ah oui?
Parce que vous, vous êtes un peu comme cela, sans être pour autant un gangster.
Non, je vais pas jusque-là.
Pourtant, lorsque l'on interprète un rôle, on prétend qu'il y a une nécessité d'identification, au moins partielle, de l'individu au personnage qu'il interprète.
Oh non, mais ça, je crois pas. Ça, je crois que c'est des légendes, ça. Parce que, par exemple, moi, j'ai joué Léon Morin, prêtre. Puis, je peux très bien jouer un gangster. Et puis, demain, si je joue un drogué ou un fédéral, je crois pas que j'irai jusqu'à ce point-là pour être bien dans le rôle. Il faut de l'imagination, c'est mieux.
Vous n'avez rien d'ecclésiastique, c'est le moins que l'on puisse dire.
Non, je portais pas spécialement la soutane, mais il faut les observer. Je crois que c'est un peu ça le métier d'acteur, c'est d'observer les gens et après d'arriver à faire ce qu'ils font. Mais je crois que justement, il y a eu un... Enfin, il y a certains acteurs, peut-être qu'ils le font, mais toute une légende où il faut vivre ce rôle jusqu'à devenir ça. Et des fois, on lit, j'ai joué un fou et j'ai fini le film, j'étais fou. Ça, c'est... Enfin, pour moi, c'est pas du tout mon style.
C'est donc la voix du regretté Jean-Paul Belmondo à propos du métier d'acteur. Et vu de sa filmographie si éclectique, si riche, je pense que la meilleure question à se poser, c'est « Et vous, quel a été votre Belmondo ?» Toi, Adeline, peut-être, qui parlait de Léon Morin-Prêtre, qu'est-ce que c'était pour toi, Belmondo ?
Oui, c'est vrai que dans le cas de la mort de Belmondo, en fait, on a toujours l'impression que des légendes partent. Mais comme il le dit si bien, en fait, c'est des rôles et c'est des légendes immortelles. Et pour moi, Belmondo, en fait, c'est une personnalité qui est tellement forte et tellement différente dans plein de ses rôles. Donc, Léon Morin-Prêtre, qui m'a particulièrement touchée, l'homme de Rio, mais aussi Stravinsky. En fait, je pense que c'est un acteur qui a su évoluer avec son temps, qui a su aussi se créer un vrai personnage, mais sans s'enfermer dedans, et quand on se plonge vraiment sur sa filmographie, est quelqu'un de très intéressant, notamment d'un point de vue humain. Je sais pas ce que vous en pensez, mais...
Bah pour moi, Belmondo, déjà, c'était une gueule. Je me souviens que dans l'hommage qu'on avait rendu à Bacri, on parlait de ces films qu'on allait voir pour un acteur. On disait on allait voir un Bacri. Bah là, je pense que c'est pareil. On allait voir un Belmondo quand on allait voir un film de Belmondo. C'est aussi un verbe. Enfin, c'est aussi du verbe, c'est aussi de la verbe. On l'a entendu là dans l'extrait que t'as choisi. On l'entend très bien dans un extrait aussi que moi, j'adore. C'est une scène d'anthologie dans Itinéraire d'un enfant gâté. Donc un face-à-face entre Belmondo et Anconina, où il lui dit « Bon, je te fais un petit test, je vais te dire des choses étonnantes, mais qui ne doivent pas t'étonner. » Et il a un tel charisme, une telle façon de dire son dialogue que l'autre est étonné tout le temps. Je trouve que c'est ça qu'il représente, la gueule, le verbe. Et je parlais de ce moment de cinéma, mais il y en a tellement des grands moments de cinéma avec Belmondo qu'on connaît tous, dont on a encore, on qu'on s'est remémoré tout au long des hommages qu'il y a eu là ce dernier mois, ces derniers temps. Et du coup, moi, j'aimerais parler de complètement autre chose. C'est un animé, Cobra. Il faut savoir que l'auteur du manga, il voit un culte à Belmondo, à tel point qu'il a donné à son personnage, qui est un pirate de l'espace, j'en ai vu quelques épisodes, le visage et la personnalité de Bebel. Donc le visage, il y a le cigare qui est mordu entre des dents bien blanches, voilà. Les pattes fournies sur les joues, le nez de boxeur. Puis dans la personnalité, c'est le caractère un peu charmeur qu'on connaissait de Belmondo, son côté intrépide et puis bah toute sa gouaille quoi. Et je trouve qu'en fait ça dit beaucoup du charisme qu'il avait et de l'influence même à l'international que Belmondo avait. Et pour moi Belmondo bah c'est tout ça.
Mais tu parlais de Cobra, mais je sais pas si tu sais cette anecdote. Mais il y a un épisode où on voit que le personnage de Cobra a fait en fait de la chirurgie esthétique, et avant il ressemblait à Delon. Genre tu regardes la tête de Cobra avant cette chirurgie esthétique, c'était Delon, donc Delon est devenu Belmondo. Et c'est vrai, quand on parle de Belmondo, c'est difficile aussi de pas penser à Delon, parce que c'est vraiment les deux grands acteurs qui ressortent de cette époque, et jouent un peu avec cette rivalité fraternelle.
Et on espère faire un hommage tardif à,
le plus tard possible,
à
oui.
Delon maintenant qu'on fait celui-là à Belmondo.
Ouais. Je trouve que c'est moins touchant presque de penser... Enfin, à Delon, enfin dans sa mort, en fait, je trouve que Belmondo, il incarne bien plus de choses, notamment sur l'aspect populaire, qui n'a peut-être pas Belmondo, en fait, Delon, pardon. Je trouve que Belmondo, en fait, il incarne aussi tout ce qu'a voulu faire la Nouvelle Vague, et notamment, du coup, le fait qu'il ait une carrière très classique de théâtre, de la Comédie Française, quelque chose qui est vraiment dans les cadres. Son père est plutôt bourgeois, il vient dans quelque chose plus bourgeois presque que Delon. Et en fait, il va vraiment incarner cet aspect populaire. Et ça s'est représenté vraiment dans son enterrement. C'est-à-dire que quelque chose aux Invalides, quelque chose de très grandiose, mais pour autant qui ne se dégage pas en fait, de l'aspect complètement populaire et ancré dans la société. Et quand il fait du coup de la Nouvelle Vague, il ne sera jamais symbolisé pour la Nouvelle Vague, en fait. Il ne va pas rester dans ce truc-là, parce qu'après, il va être connu pour ses cascades, pour un côté beaucoup plus boxeur, pour les trucs comme ça, pour les comédies, pour Cartouche. En fait, il ne faut pas oublier que quand même, il a fait Cartouche, qui est quand même un téléfilm, quelque chose qui est vraiment la quintessence du populaire. C'est quelqu'un qui a su vraiment être dans tous les types de films, sans pour autant tomber dans une possibilité et dans la facilité non plus. Il n'a pas fait, par exemple, d'Astérix. On pourrait considérer comme ce qu'a fait Delon, par exemple. Ouais. Et donc voilà, je pense que c'est un acteur très complet. Juste.
Ouais. Pour toi, Lucas, c'est quoi Belmondo ?
Non, mais écoute, j'écoutais Louis qui disait à juste titre son aura internationale. Et c'est vrai que j'ai été surpris de voir quand même tout l'hommage aussi mondial de Refn à bien d'autres qui a été fait pour Belmondo. Et c'est clair que c'est un acteur qui transcendait les frontières en passant par. Par la Belgique, qui a d'ailleurs subi les foudres de Monsieur Benzema avant-hier. Je sais que ça aurait fait grand plaisir à Belmondo,
fan de foot,
étant donné le fan de foot qu'il était.
Et cofondateur du PSG aussi.
Exactement.
On peut le passer.
Et notamment aussi en Russie, j'ai été surpris, parce que quand on va voir les vidéos d'hommage de Belmondo, quand on va voir les commentaires, il y a énormément de Russes. Et en fait, c'est parce que sous l'URSS, c'était les seuls films occidentaux, en gros, autorisés, étaient ceux avec Belmondo. Ce qui fait que t'as toute une génération de Russes qui a grandi avec Belmondo, et là-bas, c'est un vrai mythe, en fait. Et je trouvais ça assez génial. Il y a une dernière anecdote, parce que tout a été dit sur Belmondo, donc on va pas ressasser, mais il y a une anecdote que je trouve sympa sur son surnom, Bebel. Est-ce que vous savez...
Oui, ça vient de Pepe Le Moko.
Non, c'est d'un autre film, mais oui, c'est quand il est arrivé... Pepel, voilà, quand il est arrivé au conservatoire... Donc avec Marielle et Rochefort, ça chambrait beaucoup apparemment. Et il venait toujours avec le même pull vert, je crois. Donc Jean Rochefort disait que c'était un clochard. Et sauf que quelques années auparavant, Jean Gabin incarnait un SDF dans un film qui s'appelle Les Bas-fonds.
Ah oui.
Et son personnage s'appelait Pépel. Et un journaliste a fait une faute de frappe, ou je sais pas, ou alors il s'est arrangé parce que Belmondo, Bebel, voilà, ça sonne bien. Et c'est comme ça maintenant qu'on connaît Bebel, enfin que ce surnom lui a été donné.
Pour finir aussi avec cet aspect international, c'est vrai que, comme tu le disais, Adeline, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de cascades, qui est connu pour ça. C'est aussi, donc c'est une gueule, une voix, mais c'est aussi un corps, Belmondo, quoi. C'est un corps très important qui a fait beaucoup de cascades. Et donc c'est aussi grâce à Rémi Julien, qui était le grand coordinateur de cascades de tout le cinéma français, qui a fait des trucs incroyables. On sait que Belmondo, le Belmondo tardif en tout cas, était aussi connu pour... défier les lois de la physique, faire des cascades, s'accrocher à des toits, des avions, courir sur des métros. Et c'est quelque chose qui a été repris dans le cinéma d'action, qu'il soit donc oriental ou occidental. Parce que d'un côté, on a Jackie Chan, qui est un énorme fan de Belmondo. Je vous conseille Police Story 3 Super Cop, qui est un très bon film, où à la fin, Jackie Chan reprend carrément avec ce caleçon à points rouges du guignolo de Belmondo, et reprend la même cascade où il s'accroche à un avion qui décolle au-dessus de la Malaisie, etc. Donc on a Jackie Chan qui a lui-même dit donc qu'il était un grand fan de Belmondo. Et on a aussi évidemment Tom Cruise. Donc, je sais que, Lucas, en tout cas, tu aimes beaucoup Tom Cruise. Où vraiment, la carrière de Tom Cruise, c'est un hommage à Belmondo. Parce que lui aussi, il est dans ce truc de faire des cascades toujours plus impressionnantes, bien mettre l'accès sur la promo, peut-être un peu trop même. Comme quoi, c'est lui qui fait ses propres cascades. Et je pense à des Missions Impossibles où il reprend, par exemple, dans le 5e Mission Impossible, où pareil, il s'accroche à un avion, comme Mabel l'avait fait. Il veut pas qu'on dise, enfin, il n'y a pas d'effet numérique, etc. Mais c'est presque moins impressionnant que Bebel à l'époque, où vraiment tu le vois debout sur un avion, quoi.
Et est-ce que tu penses que Bebel, il serait allé dans l'espace?
Je pense que Bebel, plus jeune, aurait peut-être voulu aller dans l'espace. Même si c'est plus un truc d'ego que vraiment de physique, j'ai l'impression.
Ouais, je pense que, oui, il y a une différence entre la volonté de se surpasser physiquement et de. Parce qu'en fait, je pense que c'est pas forcément. Enfin, dans la carrière de Belmondo, c'est pas forcément une représentation de dire je fais mes cascades, parce que au contraire, ça le foutait dans la merde. En vrai, personne voulait produire les films. Ouais. Enfin, c'était plutôt chiant. Et je pense que c'était vraiment un plaisir de cascader et de faire d'être casse-cou. Je pense que c'était vraiment plus une envie que de l'ego.
C'était aussi de la musique pour moi, Belmondo, parce que quand on pense à Belmondo, on pense à sa voix qui est assez spéciale, qui est assez reconnaissable, quoi, ce qui est bien pour un acteur. Mais aussi, beaucoup de ses films ont été accompagnés par une bande de son incroyable, et je pense évidemment à Ennio Morricone, comme bien souvent, ouais. Qui a fait cette musique du Professionnel que Ennio Morricone n'aimait pas beaucoup et qui a été un peu trop collée à Belmondo, même à son enterrement. C'est une musique très belle, mais je trouve que c'est pas une musique non plus incroyable.
Certains diront Royal Canin.
Oui, certains en face de moi diront
même Royal Rab, hein. des inconnus. Non, pas des inconnus, pardon, des nuls.
Oula, grande confusion. Et peut-être avant d'écouter un morceau justement de Philippe Sard et non pas de Ennio Morricone, qui est avec Chet Baker et qui s'appelle Flic ou Voyou. Peut-être que chacun aurait un film ou deux de Belmondo à recommander à nos spectateurs.
Moi, je suis incapable de choisir un film où il est le personnage principal, mais j'ai choisi Les Acteurs de Bertrand Blier, qui est un film de 2000 et qui est, je crois, l'avant-dernier film où l'on voit apparaître Belmondo à l'écran. Il apparaît juste 5 minutes. Je ne sais pas si il y aura l'extrait tout à l'heure, mais où il se marre, en fait, il rigole pendant 5 minutes et il dit cette phrase « Qu'est-ce que je me suis marré au moins 20 fois ?» Et je pense que c'est la phrase qui résume le mieux sa vie, en fait. « Qu'est-ce que je me suis marré ?» Et je pense notamment en disant ça à cette archive que tout le monde connaît, où il est assis sur un canapé avec Coluche et Boujna et qu'ils sont tous complètement bourrés. Et il arrive à faire de l'ombre à Coluche et Boujna. Bon, Boujna, c'était un peu moins dur de lui faire de l'ombre. Mais je trouvais que c'était... J'ai hâte de réentendre cette petite phrase qui, pour moi, est assez, assez triste maintenant qu'on connaît le destin de Belmondo, mais qui fait toujours son effet.
Surtout que c'était un des derniers films qu'il a fait avant son AVC. Qui ensuite l'a privé de retourner au cinéma. C'est quelqu'un qui vraiment voulait retourner, refaire des films et tout. Il parlait encore avant sa mort de faire un film avec Lelouch, de faire la suite de Itinéraire d'un enfant gâté. Malheureusement, il n'aura pas eu le temps. Toi, lui, pour toi.
Bah, du coup, tu viens de le dire et je l'ai cité tout à l'heure. Pour moi, son meilleur film, c'est Itinéraire d'un enfant gâté. C'est pour moi là-dedans qu'il est le meilleur et qu'on retrouve le plus Belmondo et toutes les caractéristiques qu'on lui connaît et qu'on vient de lui citer.
C'est vrai que c'est juste après sa période Bébel populaire où il avait un peu marre après notre enfant dans ce rôle. C'est beau de le retrouver dans un vrai jeu d'acteur, entre guillemets. Même si Bebel, c'était un vrai jeu d'acteur, mais de repenser qu'il venait de la comédie française. Quoi.
Et toi, Nicolas?
Moi, il y en a beaucoup que j'aime de Belmondo, donc je n'ai pas pu en choisir qu'un seul. J'en ai pris deux, qui sont L'Homme de Rio, là, de Philippe de Broca, qu'un film qu'on aime tous beaucoup. Parce que c'est le début du Bebel aventurier qui s'accroche partout et tout. Il a fait L'Homme de Rio et Tribulation d'un film en Chine, qui sont deux films quand même très plaisants. Et sinon, je pense que mon Bebel préféré, c'est 100 000 dollars au soleil, de Henri Verneuil, qui est incroyable, que j'ai mis plusieurs fois à tirer, mais qui n'a jamais été tiré au sort cette émission, où en gros, c'est un western qui se passe dans le Sahara, où il y a Lino Ventura qui poursuit Bebel en camion, ils ont des Stetson, des fusils, c'est très très beau. Et toi, Adeline?
Moi, je resterai sur Léon Morin-Prêtre, Forever, qu'on peut retrouver sur notre page Instagram, où j'en ai mis des photos. Je
pense l'homme que c'est de Rio aussi.
Oui, L'Homme de Rio aussi.
On aime beaucoup Bebel. Hein.
On est des grands fans, mais je pense que ouais, le duo avec Emmanuel Riva et tout cet environnement que j'ai beaucoup aimé.
Tu parles de L'Homme de Rio et tout à l'heure tu parlais de l'influence de Belmondo sur Tom Cruise. Je pense quand même L'Homme de Rio magnifique, du jardin, il n'y a pas d'OSS, clairement.
Oui, clairement, c'est vrai que le magnifique est un film que je crois que tu aimes beaucoup. Ouais. C'est OSS Begin. Eh ben écoutez, après ce beau débat, on espère que ça vous aura donné envie de revoir du Belmondo. Et on va écouter donc la musique de Philippe Sard pour le film Flic ou Voyou, en duo avec Chet Baker à la trompette. Et un petit extrait de la scène dont tu parlais, Lucas, juste avant.
Qu'est-ce que je me suis marré.
C'était donc la musique de Flic ou Voyou, qui est un film que je ne trouve pas incroyable, qui est assez classique, mais je pense que c'est ma musique préférée de Belmondo. Et sans transition, on va passer au débat du mois, car c'est Matrix que les spectateurs ont choisi en tant que film d'ouverture de cette nouvelle saison, parmi un choix de 4 films que nous avons chacun proposé sur notre page Instagram. Donc suivez-nous sur Instagram, Vitamine Ciné, qu'elle s'appelle. C'est donc vers toi que je me tourne, Louis, pourquoi avoir proposé Matrix ?
Mais c'est un film que j'avais vu il y a plusieurs années maintenant, j'étais beaucoup plus jeune et il m'avait beaucoup marqué. À l'époque, c'est ce genre de film qui me plaisait et j'avais envie de revenir dessus parce que c'est un film déjà pour, enfin au-delà moi du, j'ai moins choisi on va dire pour sa philosophie que je trouve un peu pompeuse. On sait que c'est une réactualisation du mythe de la caverne de Platon, que c'est un film qui va nous inciter à refuser les choses telles qu'elles nous sont imposées, etc. Moi, c'est une philosophie que je trouve un peu pompeuse, etc. Non, je l'ai choisi vraiment pour toutes ces trouvailles esthétiques, visuelles, pour l'univers qu'il a réussi à imposer, toute l'imagerie qu'on connaît maintenant de Matrix, et aussi parce que c'était l'occasion, avec la sortie bientôt de Matrix 4, de faire un débat sur la trilogie, tout simplement.
Bah justement, Matrix, à l'époque, et en VF, ça ressemblait à ça.
C'est quoi la Matrice ? La Matrice est le monde qu'ils ont placé devant ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. Quelle vérité ?
Ils te surveillent, Neo.
L'espèce humaine est une maladie. Vous êtes le cancer de cette planète. Et nous sommes l'antidote.
Fais-moi sortir tout de suite!
Bienvenue dans le monde réel.
La VF, comme d'habitude, surtout les VF des bandes-annonces, c'est quelque chose. Donc je pense que pour comprendre notre rapport à Matrix, il faut qu'on sache comment on a découvert Matrix. Donc Louis, toi, comment...
Bah, est-ce que quand peut-être je peux le pitcher un petit peu avant, pour vas-y, ceux qui l'auraient pas vu, même si pitch, je pense pitch, que beaucoup de gens ont vu Matrix, c'est un film très populaire. Mais comme on a pu le comprendre un peu dans la bande-annonce, on a Neo, qui est un des pirates du cyberespace, un peu du web, mais des années début des années 2000, qui... non, même fin 90, hein, qui reçoit des mystérieux messages cryptés d'un certain Morpheus. Et ce Morpheus... Il exhorte à aller au-delà donc des apparences et à trouver la réponse à une question qui le hante, Neo, et qui est Mr. Anderson dans la vie réelle. C'est qu'est-ce que la Matrice ? Et finalement, on va comprendre assez vite que c'est une sorte de réalité virtuelle, même si c'est un peu un oxymore, et il va s'en échapper. Et c'est comme ça que démarre la trilogie Matrix. Et je l'ai découverte... Enfin, pas la trilogie, j'avais vu que le premier, pour dire vrai. Il y a quelques années, comme je disais, j'étais ado, je crois, et c'est le genre de film de blockbuster qu'on aime quand on est ado, et que j'avais beaucoup aimé voir à l'époque, et que j'avais très envie de revoir maintenant avec des yeux un peu plus neufs et un regard un peu plus neuf.
Toi, Lucas, tu l'as découvert quand ?
Je n'avais jamais vu aucun Matrix. J'avais tenté, je crois, quand j'étais adolescent, comme tu disais, le premier, mais j'avais dû abandonner au bout de 10 minutes, je pense. Ah oui. Donc, non, mais c'est bien, au moins ça me les a fait regarder. Enfin, c'est bien. C'est fait.
On en discutera.
On en discutera. Mais voilà, non, après, vous le savez, c'est pas la première fois que je le dis dans l'émission. J'ai pas forcément d'atome crochu avec la science-fiction. Même des réalisateurs comme Carpenter ou Ridley Scott, je reconnais leur talent, évidemment, mais ça me parle pas vraiment. Donc, forcément, moi, Matrix, je n'avais pas vu, mais Mais très bien, on va en parler.
Toi, Adeline ?
C'est assez étrange parce que j'ai l'impression que du fait d'avoir eu des grandes sœurs, des cousins, etc., qui ont vécu ce moment-là dans les années 2000, donc le film sort en 1999, j'ai toujours eu l'impression d'avoir vu Matrix, mais je l'ai vu pour la première fois à ma seconde année de fac, donc assez tard, et j'ai vu le 1, le 2, et j'avais pas vu le 3, donc là j'ai revu la trilogie pour la mission. Et toi, Nicolas ?
Ben moi, c'était à la fin de l'enfance, genre avant l'adolescence, mais quand même enfant que j'ai découvert Matrix. Et un peu plus tard, ses suites, donc peut-être au début de l'adolescence, ses suites. Et c'est un film qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué. Et donc, c'est un film que j'ai revu quelques fois. Là, le premier, j'ai dû le voir peut-être pas 10 fois, mais 7 ou 8 fois. Et les suites, je les avais vues quelques fois, moins de fois, parce que c'est différent, quoi, le rapport qu'on peut avoir aux suites. Donc, on en parlera. Mais Matrix, le premier, en tout cas, c'est un film qui m'a beaucoup marqué, parce que c'est un film que je comprenais, en tout cas pour le premier. Le deuxième, vraiment, la première fois que je l'ai vu, je n'ai rien compris. Même si, enfant, t'as un peu du mal à faire la différence entre la matrice et le monde réel, tu comprends pas tout ce qui se dit, mais c'est un film que tu ressens assez fort. J'en parlerai, parce que c'est un film très plaisant à voir. Il y a du kung-fu, des explosions partout, donc évidemment que c'est un film que j'ai adoré enfant, et on parlera notamment du 2 un peu plus tard, mais même dans le 2, il y a beaucoup de scènes qui m'avaient marqué. Et c'est aussi un film que j'ai découvert en VF, donc. Mmh. Et donc là, je l'ai revu, les quelques fois où je les ai revus dernièrement, c'était évidemment en VO. Mais c'est la voix de Hugo Weaving qui joue donc l'agent Smith, qui dit Monsieur Anderson. C'est une voix, une phrase et une voix qui m'ont beaucoup, beaucoup marqué.
Et du coup, on peut presque supposer que tu as aimé ce film et que tu as aimé le revoir pour préparer l'émission.
Évidemment, parce que je l'ai revu aussi, j'ai essayé de le revoir en lisant à côté, donc, un magazine, enfin, un livre. Un Rokirama hors série écrit par Rafik Djoumi, qui est vraiment l'exégète français de Matrix. Où il a repris des articles qu'il avait écrits à l'époque déjà, où il part vraiment en profondeur dans ce qu'est Matrix et les influences philosophiques. Donc, oui, comme tu disais, Louis, on peut avoir l'impression que c'est un peu pompeux philosophiquement, etc. En fait, il y a beaucoup, beaucoup de trucs cachés, de sous-textes qu'on trouve au-delà du premier sous-texte qu'on peut voir évidemment sur la caverne de Platon, etc. Il y a quand même beaucoup de choses, et c'est, même si l'auteur Rafik Djoumi va des fois peut-être un peu loin, notamment sur les suites où il part dans des trucs qu'on peut vérifier en voyant les suites, notamment sur le Ragnarok, la mythologie, le monomythe de Joseph Campbell, etc. Mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, donc, de revoir Matrix. Et surtout, j'ai le 1, c'est un film qui me plaît toujours beaucoup et que je trouve qui est toujours moderne, enfin qui est toujours plaisant à voir et qui ne vieillit pas trop.
Qu'à la fois bien et mal vieilli, bizarrement. Parce que la technologie a changé, ouais. Donc on voit bien que toutes ces lignes de code n'ont vraiment aucun sens, et que toutes ces machines, non tu...
Ah, je trouve pas ça du tout choquant. Je trouve que le premier...
Mais à l'inverse, comme c'est un univers très complet, malgré tout, on arrive à se plonger dedans. C'est ça que je veux dire. Ça a à la fois bien et mal vieilli.
Ouais, mais
c'est pas dérangeant
parlant,
non plus.
Ce qui m'a choqué en le re-regardant, c'est que justement, en fait, il n'y avait pas quelque chose de si cheap que ça, parce que justement c'est un film cheap, et donc du coup il y a un très léger budget, etc., tout est fait en studio, et du coup en fait il y a peu d'effets spéciaux qui sont faits en 3D ou des choses comme ça, enfin en extérieur au studio, et du coup je trouve que c'est un film qui en soi ne vieillit pas si mal, parce que il est ancré sur une mode donc du coup fin 2000, etc., ouais. Du steampunk, etc., qui en soi, même à la fin des années 2000
90
pardon, apparaît comme quelque chose d'un peu genré, et vraiment le steampunk c'est le début et la fin, en fait c'est que Matrix va le remettre à la mode. Enfin, moi j'ai vraiment des souvenirs très forts de mon cousin qui était un sosie de Thomas Anderson vivant, il séchait les cours pour aller dans des cybercafés, enfin c'était n'importe quoi, mais en même temps en fait c'était quelque chose de très fort, et ce que je disais c'est que je pense que c'est un peu le Harry Potter des personnes qui avaient 16 ans dans les années 90. C'est-à-dire qu'en fait, on te dit, à l'arrivée de Internet qui représente quand même comme la magie, à cette époque-là, en fait, tu peux tout faire. Et en fait, c'est bien plus simple que maintenant, parce que le code, etc., c'est beaucoup plus accessible. Et en fait, on te dit que, en tant que personne qui est passionnée par cette nouvelle magie, tu peux être élu. Tu peux être élu d'un monde qui est en fait au-delà en fait, du réel. Et c'est un peu aussi un virage un peu gothique d'ado qui est là. Non, mais en fait, le monde n'est pas fait pour moi. Mais en même temps, c'est un peu ça. C'est le monde, il est nul. En fait, il est nul parce qu'il n'est pas vrai. Et je trouve que c'est un peu un mythe initiatique. Et finalement, les Sœurs Wachowski, quand elles font ce film, en fait, elles font aussi un film pour dire aux ados qui ont raté Harry Potter, vous inquiétez pas, vous avez aussi votre mythe. On va venir vous chercher.
Peut-être avant de parler donc de toutes ces influences, qu'il y en a beaucoup dans Matrix, peut-être tout simplement savoir notre avis sur le film, Lucas.
Ouais, juste avant, je voudrais juste revenir sur le petit débat que vous avez eu sur le côté vieillot, tout ça. Moi qui ai découvert le film en 2021, du coup, je trouvais ça justement assez impressionnant au niveau des effets spéciaux, à part évidemment deux, trois scènes avec du feu, je crois, où ça saute aux yeux. Mais non, pour le coup, je crois que c'était assez virtuose. C'est quoi, c'est 1999
ouais.
À ce niveau-là. Le seul côté kitsch et vieillot, pour moi, il se trouve plutôt dans les costumes maintenant. Mmh. Pour le coup,
ça reflète une époque.
Voilà. Mais bon, je pouvais pas m'empêcher de trouver ça assez ridicule pour le coup. Je sais pas si à l'époque.
Ouais, c'est vraiment
J'imagine
steampunk
non,
en fait, c'est vraiment une mode de steampunk. En soi, elle est pas vraiment à la mode non plus, parce qu'en fait, il faut se dire que il y a deux films qui sortent à peu près la même année, et je trouve que c'est super intéressant de pouvoir les comparer. C'est le Truman Show qui sort aussi en 1999 et Fight Club. Donc du coup, on peut se dire qu'il y a une forme de même esthétique, mais que quand même elle est poussée à bout dans Matrix, elle est poussée dans le cliché du gothique et du steampunk, de vraiment le latex, le cuir. Les lunettes, tout ça.
Et pour en revenir à ce que disait Lucas, c'est vrai que même les images de synthèse, finalement, je trouve que pour le coup, elles marchent toujours bien aujourd'hui.
Et surtout, c'est incroyable parce que c'est un peu la pierre sur laquelle est bâti le cinéma d'aujourd'hui, en tout cas le cinéma numérique. Parce que le cinéma numérique a commencé au début des années 80, enfin même dans les années 80, il y avait eu notamment Tron, ce fameux film de Disney qui était avec beaucoup d'images synthèse. Mais le numérique réaliste, entre guillemets, ça a commencé au début des années 90 avec Jurassic Park, tous ces films, etc., où vraiment on commence à se dire on peut faire des images auxquelles on croit et qui sont entièrement numériques. Mais là, Matrix, c'est des images qui sont intégrées. L'effet spécial en tant que soi est intégré dans l'esthétique, dans ce que raconte le film. Le bullet time, oui. Ça va bien avec ce que raconte Matrix, tous les effets spéciaux. Le fait que ça soit un monde numérique, le monde réel, quoi, enfin le monde que les personnages pensent réel. C'est normal que ça ait une esthétique numérique vu que c'est pas vraiment le monde réel, quoi, etc. D'ailleurs, le monde de Zion, donc le monde où vont les gens qui sont réveillés de la matrice, c'est un monde qui est beaucoup plus crade, beaucoup plus avec des aspérités partout, etc. Avec pratiquement pas d'effets spéciaux, à part dans les suites, mais là on parle vraiment que du premier. Ouais. Donc je trouve que toute cette philosophie des effets spéciaux, cette esthétique des effets spéciaux, est passionnante dans le premier Matrix, et ça va durer 10 ans, ça va durer jusqu'à Avatar. Ou Avatar, là, on aura carrément un monde entier qui est entièrement numérique et entièrement crédible. Et c'est vrai que maintenant, ça a des dérives avec les Avengers, où c'est du cinéma d'animation, parce que c'est juste des poupées numériques où on colle les visages des acteurs dessus.
C'est très moche.
Et c'est très moche, tandis que Matrix, oui, vieillit beaucoup mieux que, par exemple, le premier Avengers qui a 10 ans, et qui a vraiment des fonds verts dégueulasses.
Et dans tous les cas, je trouve que, même si on peut avoir l'impression parfois d'une bouillie visuelle numérique, mais qui est normale, comme tu l'as dit, parce qu'on est dans la matrice, je trouve que c'est toujours rattrapé par et c'est un des points forts que j'ai relevé, un sens du cadrage,
oui. Ah, oui.
Qui est assez exceptionnel. Alors j'ai noté Bill Pope,
en
directeur
photo.
Photographie. Donc c'est toujours rattrapé, et là aussi c'était quand même assez fort.
Et je trouve que le cadre est impressionnant dans le 1 et dans le 2, mais beaucoup moins travaillé dans le 3, bizarrement. J'ai vraiment des images marquantes dans le 1 et le 2.
Oui, bon, de toute façon, dans le 3,
je pense qu'on aura des choses à dire.
Des choses à dire.
Parce qu'il y a le 1 et il y a le 2 et le 3.
Pour moi, il y a le 1, le ensuite il y a le 2, bon. Et ensuite il y a le 3.
Mais je pense qu'on parlera des suites après parce que.
Et du coup, est-ce que vous aimez Matrix, tout simplement?
Le premier, du
coup. Le premier Matrix, pardon.
Oui, le premier, oui, j'adore. J'avais peur d'être déçu du fait de l'avoir vu à un moment où, encore une fois, c'est le genre de film qu'on aime. Là, j'allais le revoir avec d'autres références, etc. J'avais peur d'être déçu. Que ce que j'avais vu avec des yeux d'enfant, là, me déçoive. Et finalement, non, j'ai accroché une seconde fois. J'ai beaucoup aimé.
C'est vrai que c'est impressionnant parce que, bah justement, quand moi je l'ai découvert, je sais pas, à 10-12 ans,
ouais.
Il y a beaucoup de scènes qui sont marquantes,
ouais.
et qui le sont encore maintenant.
Ouais.
On a parlé des combats. Pour les combats, j'ai pas noté le nom du... Si, j'ai noté le nom du chorégraphe qui s'appelle Yuen Wuping, qui est un chorégraphe hongkongais qui a fait beaucoup de films justement avec Jackie Chan, etc.
S'il nous écoute.
S'il nous écoute. Et les combats sont encore excellents quand on les voit, même si tu... Enfin, c'est des combats
dans
avec
le
des câbles. Dans le premier, oui. Même dans... On en parlera. Et même, c'est un film un peu horrifique. Il y a du body horror, quoi. Il y a vraiment, le corps est mis à rude épreuve, où on le voit avec des câbles qui sortent de lui, cette genre de bestiole qui lui rentre dans le ventre. C'est des scènes très marquantes, même quand sa bouche se referme avec un truc de peau dessus. C'est des scènes très marquantes. Et c'est aussi, je trouve que... Le premier Matrix, un rythme qui est très solide,
c'est ce que
qui
dire.
Est impressionnant. Ça dure 2 heures, mais il n'y a pas un seul temps mort, sans que ça soit non plus hystérique comme film, quoi. la narration, c'est très efficace vraiment pour que ça raconte. Ça arrive à être clair alors que c'est un truc assez compliqué, surtout pour le grand public d'il y a 20 ans, quoi.
Bah oui, c'est très cohérent. Je trouve que vraiment, en soi, c'est le début d'Internet, encore une fois. Il y a peu de connaissances, en fait. Et en soi, il y a deux univers qui s'opposent, la matrice, le monde réel. Et en fait, ça, tout est simple. Enfin,
qui s'opposent ou qui se confondent.
Oui. C'est ça, mais qu'il y a deux univers soi, et ça prend des bases qui, pour autant, on en reparlera plus tard, sont très très ancrées. Enfin, il y a vraiment énormément de références, enfin, c'est assez poussé comme réflexion, en tout cas. En tout cas, ce qu'elles ont voulu faire, c'était vraiment très 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 ancré et très très bien fait. Et du coup, pour donner mon avis, la première fois que je l'avais vu, j'avais vu ça comme un film d'entertainment, vraiment premier degré. J'avais trouvé ça bien. Un peu fun, mais pas de ouf. Et en le revoyant là pour préparer l'émission, je me suis dit, c'est impressionnant. Comme il faut se dire que ce film était sans précédent, en fait. Donc pour revenir du coup sur les deux films que j'ai notés qui ont lieu avant, parce que je me suis dit, c'est fou en fait de sortir un film comme ça et se dire que par rapport à la science-fiction, par rapport à des films qui sont dans des semblants de réel, on invente quelque chose qui est très fort.
C'est précurseur.
C'est précurseur. Après, en regardant les films qui sont faits en même temps, je me rends compte que c'est quand même vraiment axé sur un point qui est le bug de l'an 2000. Ouais, enfin, vraiment, c'est fou que Fight Club, Truman Show et Matrix sortent en même temps. Ces trois films qui sont sur le réel et l'irréel. C'est vraiment le fait qu'on a un vrai besoin à cette époque-là de déconstruire. Mais la déconstruction, là, elle est totale. Et c'est un film que, comme tu disais, j'ai vu Matrix la veille de voir Dune. Oui. Et j'étais là, mais c'est fou. Genre, en deux heures, ils arrivent à tout dire. Ouais. Ils arrivent à tout dire d'un truc qui est très complexe, ce que n'arrive pas à faire.
Dune en trois heures.
Dune en trois heures. Donc j'étais là, c'est fou comme le film, il est dans son époque, mais il est très bon, il est très bien rythmé. Et encore une fois, l'histoire, même si les bases, on les contredira plus tard, elles sont finalement assez faibles. Il est très bien construit, il est vraiment très fort, et j'ai vraiment bien aimé. Et les acteurs, on parle pas assez de Keanu, mais bon, quand même,
on en reparlera, on en reparlera. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de références dans Matrix, et ça lui était pas fort reproché, parce que ça prend Ghost in the Shell, par exemple, et beaucoup d'autres films avant. Mais il y a des références aussi pointues, il y a pas mal de philosophie, il y a Baudrillard, évidemment, même si on voit un gros plan sur un livre de Baudrillard, il y a Alice au Pays des Merveilles, il y a du Nietzsche, il y a beaucoup de références, mais c'est pas non plus un truc pompeux qui te balance ces références.
En termes de références, je trouve pas que ce soit pompeux. En termes de philosophie, beaucoup plus, mais en termes de références, là-dessus, oui, non.
Le truc, c'est que ça devient une synthèse de toutes ces références, ouais. Ça devient une nouvelle référence, en fait, des références, parce qu'au final, tout le monde s'est déjà demandé, et si la matrice était vraie, genre, on peut pas vraiment prouver le contraire. Donc ça, je trouve que ça a relancé un peu, une genre de machine philosophique grâce à ce film, ce qui est assez rare quoi, pour un film de cinéma.
Pour l'anecdote, en fait, ça a relancé un peu une machine philosophique, comme tu dis, qui est en train de se retourner contre les Wachowski en ce moment. C'est pour cette raison en fait, qu'il va y avoir un 4. C'est qu'en fait, le site 4chan, du coup, qui est un site d'extrême droite, a repris en fait, le principe des Red Pills. Donc du coup, dans le film, Morpheus donne le choix à Neo choisir entre la pilule bleue ou la pilule rouge. La pilule rouge représente ce qui va éveiller du coup le personnage principal. Et en fait, du coup, toute cette philosophie, du coup, le mythe de la caverne, etc., de sortir de la réalité, ça a été repris par 4chan, donc un groupe d'extrême droite et notamment complotiste, qui va dire qu'en fait, du coup, toute notre société est faite par le complot. Et en fait, du coup, c'est une métaphore particulièrement adaptée à toutes les thèses qui affirment que la réalité est cachée. Donc pour eux, Matrix, c'est ça. Et en fait, du coup, les sœurs Wachowski ont complètement été dépassées par ce mouvement, notamment du coup le mème de Morpheus qui tient la pilule rouge et a été refait par du coup toute cette sémantique d'extrême droite. Et en fait, c'est très important du coup de noter que Matrix aussi, en fait, il a été repris par des personnes qui se sentaient non identifiées à un système et que ce que l'on a pensé dans les 2000 comme une quelque chose qui pouvait nous libérer de nos chaînes du coup du consumérisme et du capitalisme, etc., était aussi quelque chose qui s'adressait à des personnes qui encore une fois, pour revenir à Harry Potter, n'avaient pas de vrai but à part le hacking, etc., parce que c'est quelque chose qui en soi se représente comme très anarchiste.
On sera obligé de façon de reparler de ça pour les Sœurs Wachowski, parce que c'est on en parlera de façon qu'on en parlera de leur cinéma, mais c'est évidemment sur la... On peut revoir maintenant 20 ans après que ça parle aussi de transidentité. Même il y a beaucoup de minorités dans Matrix. On le voit notamment dans le 2. Et ils en parlent, ils disent les minorités les plus opprimées sont celles qui sont le plus à même de sortir de la matrice. Mais avant, donc Lucas, toi, qu'en as-tu pensé de Matrix ? Parce que j'ai l'impression que c'est toi qui as un peu le moins aimé le film.
Ah oui, clairement, je peux pas dire que j'ai aimé. Je peux pas dire non plus que j'ai détesté, clairement, mais si j'ai pas aimé, si j'ai pas vraiment accroché, c'est pour une raison simple et basique, c'est que moi, ce questionnement-là, qui va de la caverne de Platon, la Matrix, l'autre monde, jusqu'à aujourd'hui, le dernier prix Goncourt, là, c'était Hervé Tellier pour l'anomalie. Ben moi, en fait, je m'en fiche, je m'en fous pour rester poli et courtois. Thibaut, courtois.
Il est fort.
C'est une question qui existe d'ailleurs dans la vraie vie et qui est prise au sérieux par des physiciens, des mathématiciens, des philosophes qui, effectivement, c'est possible qu'on vive dans une matrice, là, nous quatre, dans cette pièce, nous cinq, pardon. Mais en fait, moi,
ça
me fait une belle jambe, j'en ai strictement. Je m'en fous.
Bleu pour Lucas.
Ah bah voilà, clairement, moi, clairement, le choix il est vite fait. Et d'ailleurs, ça amène à ma scène préférée, c'est avec ce personnage du traître. Alors je sais plus comment il s'appelle, le petit chauve, Cypher. Et bah lui, mais moi je suis Cypher. Moi. Et l'image du steak où il mange. Voilà, ça c'est une bonne scène. Et où il est au restaurant et donc il trahit donc avec Smith, j'imagine, qui est de lui. Il lui dit, mais moi tant que mon steak a le même goût, c'est bon quoi. Et puis après, il veut gagner de l'argent comme ça et être une star. Et bah Cypher, moi j'aurais aimé en fait un film sur Cypher, parce que c'est un questionnement évidemment intéressant, mais auquel je m'investis pas, parce que moi la réponse est vite répondue pour reprendre un grand de notre pays. Et d'ailleurs il y a un film très récent, alors qui est quand même pas du tout pareil, mais qui prend le contre-pied de ça, c'est Ad Astra de James Gray, où là lui, t'as Brad Pitt qui cherche donc son père dans l'espace, parce que son père aurait trouvé quelque chose, un autre monde. Sauf que la morale, évidemment, de ce film, c'est, en fait, on s'en fout. Vaut mieux se concentrer et prendre du plaisir avec ce qui nous entoure vraiment, ce qui est concret, plutôt que de perdre toute sa vie à chercher quelque chose qui peut-être n'existe pas et qui, au final, est peut-être moins bien que ce qu'on peut vivre maintenant. Donc, je dis pas que j'aime. Enfin, évidemment, il y a des films avec lesquels que j'aime, alors que je suis pas forcément d'accord avec le message ou la philosophie du machin. Mais là, c'est vrai que c'est quand même central et c'est. Ça porte tout, parce que si tu t'intéresses pas à la quête de Neo, tu peux pas trop avoir d'émotion, et moi, clairement, je n'ai pas eu vraiment d'émotion, surtout avec ces personnages qui, je suis désolé, moi, je les trouve... Alors, autant sur la narration et tout ça, le rythme et tout, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, autant sur la construction des personnages et ce qu'ils me font ressentir, et même les acteurs, moi, Laurence Fishburne...
Mais je trouve qu'ils manquent de profondeur, et surtout, ils sont très peu expressifs. Leurs visages sont très peu expressifs,
ouais,
et ça me dérange aussi beaucoup, parce que c'est beaucoup basé sur l'amour entre Trinity et Neo, et un amour qu'on ressent pas du tout.
Ah bah non, mais c'est une des pires.
Et pourtant, le film est clairement basé sur cet amour-là, alors qu'à aucun moment on le ressent.
Ouais, et même juste avant, donc on croit que Neo meurt, je sais plus de quelle manière.
C'est pour une balle, ouais.
Ouais, donc au final, après, il revient. Mais même là, je sais pas. Enfin, en termes de charge émotionnelle, ça sonnait un peu creux, je trouvais.
Bah, c'est vrai que Morpheus, notamment, on s'est rendu compte que, encore dans le 1, il a du charisme, parce qu'il est là. Ouais. C'est lui qui guide un peu le spectateur et qui guide Neo. Mais c'est vrai que malheureusement, c'est un acteur qui est très peu exploité au final, et qui, surtout dans le 3, où il ne sert plus à rien. Donc je comprends que tu puisses avoir ce manque de charge émotionnelle. Est-ce que t'as pas non plus été touché par toutes ces scènes d'action?
Alors, si, les scènes de combat, c'est intéressant. Bon, après, moi, je dis quoi, c'est évidemment une référence aux arts martiaux. Je vois un film de Hong Kongais, cinéma hongkongais. Bon, j'y connais rien, mais je pense pas que ce soit très grave. C'est sûr que les scènes de combat, elles sont très chorégraphiées, et je trouve ça hyper satisfaisant à regarder. C'est limite de l'ASMR de combat. Mais c'est pas du tout âpre et sale. C'est ce que j'aime bien dans les combats, ce qui m'aime le plus. Enfin, à aucun moment on a l'impression qu'ils ont mal en fait en se frappant. Et là encore, en fait, il y a aucune émotion pour moi qui passe là-dedans. Et les combats ne m'ont pas marqué non plus, parce que je sentais pas le danger. C'était très satisfaisant à regarder, mais aucun danger pour moi. Je n'avais pas mal.
C'est un peu justifié vu que c'est un surhomme quoi, Neo, dans la matrice. C'est normal qu'il ne ressente aucun mal.
Ouais, mais même lui, j'ai l'impression qu'il ne fait pas mal aux autres quoi. C'est.
Ok, je vois.
Mais bon,
ils sont un peu raides et ils tombent.
Alors après, il y a quand même une scène de combat qui n'est dans le 2, mais on en reparlera tout à l'heure, qui par sa démesure m'a plu.
Je comprends.
Je te rejoins, Lucas, je pense que sur la trilogie, et notamment sur le premier, il y a une question qui revient, c'est celle du fil rouge. C'est que finalement, il va y avoir, dans la trilogie plus particulièrement, trois thèmes. Donc celui de Morpheus, celui en fait de la croyance de Morpheus, et sur l'oracle, et sur vraiment le devenir, la prophétie, et donc du coup tout ce registre qui est judéo-chrétien, de Zion, Nabucodonosor, le prophète, l'élu, tout ce registre-là. En même temps, on va avoir celui de l'amour. L'amour est plus fort, et on le verra notamment à la fin du 3, sur en fait la quête la plus haute. C'est pas déjouer les chaînes, enlever les chaînes, c'est aimer, ce que je trouve très niais à la fin. Et la première quête, celle qui est de Matrix 1, c'est celle de Neo. C'est du coup, est-ce que un homme peut être l'élu? Est-ce qu'il est l'élu s'il croit en lui? Est-ce qu'il est l'élu si il crée sa propre
c'est
identité?
La quête de vérité, un peu.
La quête de vérité. Et en fait, dans ces trois fils rouges, il y en a aucun qui prendra jamais le dessus, je trouve. Et du coup, rien qui pourra nous ramener au sensible. Et du coup, je suis assez d'accord avec toi, Lucas, sur ce point de vue-là. C'est que finalement, quand on regarde l'aspect global du premier film et après de la trilogie, on a l'impression qu'en fait, on a eu peu d'affect parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont voulu être dites, beaucoup de bases scientifiques, philosophiques, etc. Et qu'en fait, il y a peu de... En vérité, oui, il y a peu ce sentiment qui peut être ressenti pour d'autres films, notamment Ad Astra. Et en fait, et c'est assez pauvre.
Je trouve que l'affect, il passe encore assez bien dans le 1, vu que c'est des archétypes connus et vraiment établis, le monomythe, tout ça, le héros. Donc c'est vraiment Neo qui devient super-héros. Donc je trouve que dans le 1, ça passe bien. Mais oui, le fait que vous parlez de justement ce manque d'affect et tout, je comprends en fait ce qui me déplaît notamment dans les suites, et surtout dans le 3, c'est qu'on en parlera après, mais oui, je comprends en fait ce que tu veux dire, Lucas et Adeline, sur le fait que les personnages sont pas totalement définis, et je pense que c'est ce qui fragilise un peu la trilogie en soi, en tant qu'unité, c'est qu'on retrouve pas non plus les mêmes personnages du 1 au 3. Neo change, enfin Neo, j'ai l'impression que c'est pas le même personnage au fur et à mesure des films, ce qui est normal puisqu'il évolue. Mais au bout d'un moment, notamment dans le sacrifice qu'il fait dans le 3, ça devient une coquille un peu vide. Ce qui est un peu dommage et un peu paradoxal quoi pour la Matrice.
Alors que le personnage le plus intéressant, finalement, c'est vraiment Morpheus, je trouve. Parce que c'est celui qui va le plus évoluer dans les doutes, dans notamment en fait, tout l'aspect de l'oracle. En fait, l'oracle, c'est le personnage le plus récurrent. C'est vraiment le personnage que l'on va voir dans tous les moments. Et pour autant, elle est plus un enjeu qu'une perspective en soi, puisque tout est relié à... L'oracle a dit quelque chose à Morpheus, et Morpheus, depuis, se bat pour ça. Et en fait, je suis assez déçue de Matrix, notamment, parce que des fois, je me dis que ça pourrait être un film que sur un mec qui a tort depuis le début. Et en fait, c'est Morpheus, et Morpheus, il peut se tromper, et c'est ce que va prouver aussi la suite de la trilogie. Et c'est vrai que dans le 1, on aura plus quelque chose qui est lié à l'action, à la performance notamment scénaristique, qui, du coup, je pense qu'il va falloir qu'on en vienne un peu, peut être un peu lourde. Baudrillard, etc., je pense qu'il y a eu une envie des sœurs Wachowski de faire quelque chose d'intellectuel et pour autant bankable. C'est mieux réussi que d'autres films, notamment Dune. Mais
deuxième balle perdue pour eux.
Mais bon, je pense que des fois on se perd un peu, Baudrillard, etc. C'est trop.
Mais justement, Baudrillard a vu le film et a dit lui-même, Matrix, c'est un peu le film sur la matrice qu'aurait pu fabriquer la matrice. Et je trouve que au final, il a à la fois il a raison, mais je trouve que ça justifie un peu le film, justement que le film ait réussi, parce que c'est un peu un produit lui-même de la matrice et c'est un film qui parle de lui-même, je trouve. Peut-être avant de passer aux suites et avant au jeu que nous a préparé attentivement Lucas, peut-être juste finir sur les acteurs, donc sur peut-être Hugo Weaving et Keanu Reeves. Je sais qu'Adine, tu es une grande fan de Keanu Reeves.
J'aime beaucoup Keanu Reeves. Il faut savoir que j'ai écouté un podcast sur Matrix qui disait que au moment où Keanu Reeves fait Matrix, il est au plus bas. Il est au plus bas de la mode, il n'est pas du tout populaire. En fait, il a fait des teen movies. Beaucoup, un teen movie sur le retour vers le passé qui, je vous conseille, est assez rigolo. Et en fait, il n'est pas du tout bankable. Et du coup, quand elles le prennent, c'est un gros risque. En fait, il n'y a aucun acteur qui est vraiment connu. On s'imagine que Keanu Reeves, il va être, qu'il est très connu à ce moment-là, mais en fait, le seul acteur qui est connu, c'est Hugo Weaving. Et Hugo Weaving, il n'est pas connu aux États-Unis. Je suis pas sûre que Le Seigneur des Anneaux soit déjà fait.
Il est en tournage.
Et donc, du coup, il est plus connu pour des films qu'il aurait fait en Nouvelle-Zélande, notamment Priscilla, folle du désert, que je vous conseille. Et en fait, pour le film, il y a eu plusieurs gros acteurs qui ont été pressentis, notamment Will Smith, qui devait jouer Neo, et Val Kilmer, qui devait jouer Morpheus. Donc ça
aurait été bien moins bien.
Bah, je vous conseille d'écouter votre émission de radio sur Cannes,
exactement,
sur le documentaire de Val Kilmer, qui était très bien. Et alors, le plus rigolo, c'est, à votre avis, qui était censé jouer Smith en pressenti? Un indice, il est français.
Franck Dubosc.
Presque.
Vincent Cassel?
Et non, c'était Jean Reno qui était censé jouer l'agent Smith.
Quand on parlait de performance bovine, peut-être que Jean Reno aurait pas peu convaincu. Vous, est-ce que vous avez un...
Puis une horde de Jean Reno, des centaines de Jean Reno à l'agent Smith.
L'horreur.
Des petites lunettes noires. Un peu
cauchemardesque.
Toi, Lucas, est-ce que tu aimes bien, du coup, Keanu Reeves en tant qu'acteur au-delà de Matrix?
En tout cas, je le déteste pas.
C'est déjà ça, c'est déjà ça.
Donc, quoi,
dans Point Break,
ouais. Oui, ça m'a l'air d'être un acteur correct. Mais...
Donc, c'est quelqu'un qui est très aimé par la culture internet, j'ai l'impression.
Oui,
il y a toute une légende autour de lui.
Il est gentil.
Est-ce qu'il est gentil aussi?
Il vieillit pas ou je sais pas quoi. Enfin, il vit comme Will Smith, quoi.
Exactement.
Non, mais c'est surtout qu'il est super sympa. En fait, il paie pour tous les films qui sont en faillite. C'est lui qui paie pour Matrix 3. C'est
beaucoup d'argent.
C'est lui qui rembourse les dettes de Nicolas Cage.
Pour moi, son meilleur rôle, c'est même pas un rôle, c'est un caméo dans le film de Bob l'éponge. Il faut le noter.
Qui est sorti il y a pas longtemps.
Qui est sorti il y a pas longtemps.
Preuve que Keanu Reeves est devenu plus qu'un acteur. C'est un phénomène.
C'est une vraie légende.
Et ben, sur ce, je propose qu'on passe au jeu du mois. Après, évidemment, le traditionnel jingle.
Nous allons jouer à un jeu.
Not a chance.
Bon, arrêtez avec les jeux. La dernière fois qu'on a joué au Trivial Pursuit, on a failli se battre.
Oh putain, c'est un Trivial Pursuit.
1, 2, 3.
Je vous propose un autre jeu plutôt. Vous connaissez un jeu auquel je gagne toujours?
Si vous ne pouvez pas perdre, ce n'est pas un jeu.
Je peux perdre, mais je gagne toujours.
Et donc, ce mois-ci, ça va être Lucas qui va faire un jeu. Donc, Lucas, est-ce que tu peux nous présenter ce jeu?
Ouais, ça va être très simple. On avait déjà joué, il y a plusieurs émissions maintenant, à ce type de jeu où je vous donnais un acteur et vous deviez me dire chacun votre rôle, un film dans lequel il avait joué. Là, on va faire une petite variante.
Louis regarde désespéré.
Ouais, je suis pas très fort à ça.
Non, mais ne t'inquiète pas, c'est différent. Puisqu'on ne va pas jouer avec un acteur, mais vous allez chacun à votre tour devoir me donner un film qui a dans son titre une couleur.
Une couleur.
Mmh. Allez, c'est parti, vous avez eu une minute qui a été coupée au montage pour réfléchir dans votre coin. Et on commence par toi, Louis, puis Adeline, et enfin Nicolas.
Bon, je vais dire.
Et Victor.
Victor joue aussi, d'accord, je ne sais pas. Ah bah, c'est très bien. Ah bah, pardon. Ah bah, avec plaisir.
Je veux dire Orange Mécanique.
Évidemment, voilà. C'est accepté.
Et moi, je vais dire Black Swan.
Moi, je vais dire La couleur pourpre de Steven Spielberg.
Le grand bleu, bien sûr.
Évidemment.
C'est celui que je vous dis. Dommage.
J'en ai plus qu'un.
J'en ai encore deux.
À toi, Louis, du coup.
Non, ouais, je voulais dire Le grand bleu. Non, je sèche.
On t'élimine.
Ouais.
Black Widow.
Oh, très bon.
On aime bien le noir.
Bleu de Krzysztof Kieślowski.
Ah, voilà. Ouais. Bon, ça va compter pour tous, moi. Zut.
À la recherche d'Octobre Rouge.
Bien joué, bravo.
Excellent film.
Merci.
Donc, juste pour la ref, Nicolas a dit bleu parce qu'il y a une trilogie qui s'appelle Bleu, Blanc, Rouge. Mais ça va compter pour un film, hein, sinon tu vas pas faire trois tours comme ça.
Blanche-Neige.
Malin.
Évidemment.
Est-ce que Violette Nozière, ça compte comme une couleur?
Je ne connais pas le film, mais je...
C'est un film de Claude Chabrol.
Mais c'est le prénom.
Et c'est son prénom.
C'est un prénom.
Ah, c'est tout à fait accepté.
Ah, ça va.
Est-ce que si je dis le rouge et le noir, ça compte pour deux?
Non, ça compte pour un, mais yes. C'est bien vu. Bien tenté.
Le bleu est une couleur chaude, le sous-titre de La vie d'Adèle.
C'est le titre VO.
C'est le titre anglais.
J'ai pensé, je sais pas. C'est...
Est-ce que t'as autre chose?
Green Lantern.
Oui. Oui.
C'est le titre en anglais.
Green Knight.
Ouais, c'est quoi le titre en anglais, c'est marrant.
Green Knight.
Désolé.
Peur bleue, ça a été dit.
Et Peur bleue, c'est très bien joué.
J'ai beaucoup de trucs avec du bleu.
Si Adeline sèche, je peux revenir en Joker, j'en ai eu. Elle m'en a inspiré.
Ah non, il n'y a pas de ça chez moi.
Il n'y a pas de ça.
Non.
Et moi j'en ai un, mais j'ai un petit doute.
Eh ben il faut y aller.
C'est Purple Blues, mais je suis pas sûre que ce soit ça.
Alors, que dit le grand Miam?
Non, tu penses à quel film?
Je pense à un film sur du jazz, mais je suis pas très sûre. Mais
alors, je vérifie. Pendant ce temps-là, Nicolas, tu peux...
Je peux dire...
Tu peux y aller, oui.
Ok, ben je pense à Purple Rain, le film de Prince.
Ok.
C'était ça. J'abandonne.
Est-ce qu'il y aurait pas genre Spider-Man contre le bouffon vert?
Non.
Non, malheureusement.
Bon, j'en ai plus parce que.
Donc, mais bien joué, on est allé loin. Donc, Nicolas gagne cette manche. Est-ce que t'avais une idée, toi, Louis?
Ça m'avait inspiré Green Hornet, le fait d'avoir Green Lantern.
Moi, je pensais aux les yeux dans les bleus.
Ah oui,
c'est un documentaire. Ça compte, ouais.
Il y en avait des évidents, la ligne rouge, la ligne verte.
Ah, c'est vrai.
Ah oui.
La planète bleue.
Eh ben quel est l'autre thème, Lucas, de...
Attends, il y en avait plein d'autres. Attends. Non, on n'en avait pas tant que ça, en fait. Alors, l'autre thème.
On aura donc une minute encore pour réfléchir. Ouais, qui sera
exactement le même jeu, mais dans le titre, il me faut un chiffre ou un nombre.
Oh, très bien.
Allez, alors, je vous laisse une minute.
Une minute.
La minute est passée. C'est parti, Louis, je t'en prie.
On en a parlé tout à l'heure, donc $1000 au soleil.
Très bien. À toi, Adeline.
La fille du 14 juillet.
Film de Antonin Perejatko que Lucas a bien.
Excellent film.
2000 ans, Odyssée de l'espace.
Bien sûr.
Les 8 salopards.
Évidemment.
Un film très récent que vous avez beaucoup aimé à Cannes, Julie en 12 chapitres.
Oh, très bon.
Je continue sur 12 avec 12 hommes en colère.
Les 7 samouraïs avant que quelqu'un d'autre le dise.
Les 4 fantastiques avant que quelqu'un d'autre le dise.
Je change complètement pour Les 1001 pattes.
Oh.
Film d'animation.
Là, j'ai un petit doute. 24 heures chrono.
C'est une série.
C'est
une série, malheureusement.
Donc
8000, 8 miles.
8
oui,
miles,
oui, oh, accepté.
500 jours ensemble.
Oui.
Ouais. Si, j'en ai un en plus. Je l'ai oublié, mais je l'avais en tête. C'était...
Aïe. Nos spectateurs ne vont pas aimer ce temps d'attente.
Je sais. Est-ce que je peux dire Ocean Eleven?
Oui, bah, oui. C'est ce que je voulais dire.
Ça compte pour les trois, pas pour les quatre.
Tu me les prends à chaque fois sur le, juste avant. Je vais dire Seven.
Bon, oui, bon. Bravo.
50-50, 50-50. Avec,
je ne connais pas ce film. Mais...
C'est un film avec Robin dans Batman.
Joseph Gordon-Levitt. Moi, je vais dire les 7 mercenaires, comme ça on sera fini avec les remakes.
Eh ben, le 50 me donne envie de dire 50 nuances degrés.
Évidemment.
Oh.
8 et demi.
Oui, le film est très bon.
Excellent film.
Et moi, j'en avais un, et j'ai oublié. Je crois que je vais m'arrêter là.
Moi, je dis 1 plus 1 de Claude Lelouch.
Très bien. 99 francs.
Ça enchaîne.
Ça enchaîne comme jamais.
Ah, c'est
bon. Ah, Louis.
Ouais, je ne veux pas faire perdre trop de temps, donc je m'arrête là.
Ok. C'est un duel encore?
C'est un duel. C'est...
Encore une fois?
4 mariages et un enterrement?
J'en ai plus non plus.
Bien, encore une fois. Alors, il y en a à l'appel, je ne vais pas tous les faire.
21 grammes.
Il y avait quand même Banlieue 13, ça ne m'étonne.
Et Banlieue 13 Ultimatum, qui est la suite. Ou le remake.
Ouais, voilà pour ce jeu, pour cette variante très travaillée.
C'était pas mal.
Non, mais un beau concept.
Merci Lucas, très bon concept. On espère que ça aura plu un spectateur, mais on sentait qu'on était plus à l'aise sur les chiffres que sur les couleurs.
Il y en avait beaucoup plus.
Évidemment. Écoutez, on va enchaîner toujours avec Matrix. Hein. On va parler des suites où on verra qu'on a peut-être globalement moins apprécié les suites que le premier film. Et on va s'écouter avant ça un petit extrait de Matrix Reloaded, un petit extrait que j'aime bien avec un acteur français.
Château Aubryon 1959, magnificent wine. I love French wine, like I love the French language. I have sampled every language. French is my favorite, fantastic language. Especially to curse with. Nom de Dieu, de putain de bordel de merde, de saloperie, de connard, d'enculé de ta mère. You see, it's like wiping your ass with silk. I love it. You know why we are here. I am a trafficker of information. I know everything I can. The question is, do you know why you are here?
C'était la très belle voix, le très bel accent français de Lambert Wilson, qui est à l'image accompagné de Monica Bellucci, face donc à Laurence Fishburne, ainsi qu'à Neo et Trinity. Donc Matrix Reloaded, c'est sorti en 2003. Le Revolution, qui est donc la suite, est sorti aussi en 2003. C'est deux films qui ont été tournés en même temps, sortis à 6 mois d'écart, et qui étaient très attendus, parce que Matrix, quand même, c'était un phénomène de société, comme on l'a expliqué. Et ces deux films qui ont vraiment beaucoup, beaucoup déçu les spectateurs et les spectatrices. Et donc, vous, j'imagine que vous avez vu les suites dans la foulée du premier. Et tout simplement, qu'en avez-vous pensé ?
Ouais, je les ai vus, moi, la semaine dernière, le 2 et le 3. Et j'ai trouvé qu'il y avait quelques bonnes idées, notamment, et c'est pour ça que tu as très bien choisi l'extrait, justement, Lambert Wilson qui jure en français, plus globalement, séquence avec Lambert Wilson. Je trouvais que c'était une très bonne idée. La scène de l'autoroute aussi, quasiment à la fin du film, qui est une très bonne idée. Mais à part ces quelques bonnes séquences, j'étais globalement très déçu et j'ai trouvé que tout ce qui faisait la force ou les forces du premier sont les points faibles du deuxième, puis on en parlera du troisième. Le rythme, je le trouve chaotique. La narration, je la trouve laborieuse pour le coup, alors qu'elle était, comme on le disait, ils avaient réussi à rendre limpide un propos qui pourrait paraître complexe dans le premier. Là, j'ai trouvé la narration vraiment laborieuse. Il y a des choses que j'ai vraiment pas compris. Tout le discours de l'architecte, j'ai compris un mot sur deux. Je trouvais que le scénario était creux. Je trouve qu'ils ont un petit peu ramé à faire trouver une suite en termes de scénario au premier Matrix. Les dialogues, là je fais la liste de tout. Les dialogues que j'ai trouvé prévisibles. Parfois j'arrivais à anticiper les répliques. C'était peu élaboré aussi. Et puis on parlait des scènes de combat dans le premier. Là j'ai trouvé que, tu vois, tous les clones numériques de Mr. Smith qui sont complètement raides.
Meilleure scène du film.
Des séquences de bagarres qui sont interminables. Là pour le coup, autant comme le disait Lucas sur le premier, j'ai été pris par les scènes de combat, autant là dans le deuxième, heureusement que j'avais mis mon téléphone en mode avion, sinon je pense que je l'aurais pris pendant les scènes de combat tellement je les ai trouvées lourde, et donc dans l'ensemble c'est le 2, et on en parlera peut-être un peu du 3 après, que j'ai trouvé lourd et ennuyant, moi.
Eh bien, figure-toi que je suis tout à fait d'accord avec toi, Louis, et pourtant j'adore ce film. C'est un film que petit j'avais vu, j'ai vraiment du mal à comprendre, à me mettre dedans, parce que c'est un film très bizarre qui commence par une rage party, une genre d'orgie dans des caves, dans des grottes, etc., qui annonce d'ailleurs Sense8, qui sera leur série 10 ans plus tard.
Voilà, on en parlera un petit peu.
Et pourtant c'est un film, alors, je l'avais déjà revu il y a 5 ans, pour être exact. Et déjà, j'avais trouvé un truc assez fascinant à ce film. Et là, je comprends en fait ce qui me plaît dans ce film, c'est que c'est un film qui est jusqu'au boutiste. Vraiment, ça pousse les potards à fond, comme Victor le fera pour le générique de cette émission, qui est une musique qu'il adore. Mais ça prend vraiment au pied à la lettre ce gigantisme. Et tu dis, c'est un rythme chaotique, mais je trouve qu'il est incroyable, parce que ça ne s'arrête jamais, ça te prend dans tous les sens, etc.
Ça nous perd. Enfin, en tout cas, ça m'a perdu.
Et moi, j'aime bien justement ce côté de perdu. En le revoyant, j'ai compris ce que voulait dire l'architecte. Écoute,
il faudrait peut-être que je le revoie. Mais comme disait Lucas dans une autre émission, un film, tu le vois une fois, il n'est pas fait pour être vu.
Je suis d'accord, mais pourtant, c'est un film, tu parles des combats qui sont vraiment, mais c'est du grand n'importe quoi, j'adore. Je trouve que ça va encore plus loin dans le côté hongkongais. Et là, ça cite tout le temps John Woo avec des pigeons qui s'envolent de partout, etc. Et le truc des doubles numériques, encore une fois, c'est une performance pour l'époque.
Et point de vue-là, oui.
Je trouve que ça permet de dire, bon, c'est bon, le bullet time, les combats de Kung Fu, vous avez compris. Là, on va mettre vraiment 1000 agents Smith, ça sera 1 million dans le 3. Et vraiment, on va faire des combats qui n'en finissent pas. Je trouve que le combat avec le mérovingien, là, et le maître des clés, j'adore cette scène, je la trouve géniale. Où ils se battent, ils sautent dans l'escalier.
Ils prennent des armes accrochées au mur, il y a les statues qui tombent. Ouais. Oui, celle-là est pas mal.
Je trouve que c'est grisant. Et même, il y a beaucoup de scènes là aussi qui m'ont marqué, en fait, comme le premier. Et c'est le discours de l'oracle qui parle, c'est un peu le même par rapport au steak dont parlait Lucas. L'oracle dit, tout est programmé, etc. Ça m'avait assez marqué petit. Et même cette idée du maître des clés qui ouvre des portes différentes, qui court partout. Oui, oui. Le mérovingien, qui, on le comprend, était en fait l'élu dans une précédente version de la Matrix.
Et qui aujourd'hui crée des programmes un peu maléfiques, un peu.
Ça, etc. Et vraiment, ça prend le contre-pied du premier Matrix, en disant tout ce que vous avez compris c'est faux, en fait, tout est programmé, l'oracle c'est qu'un programme comme un autre, et en fait vous êtes contrôlé, ça arrange bien la Matrix, que vous vous révoltez, etc. Au final, est-ce qu'on est sûr que le monde réel d'Ozion est un vrai monde, ou alors c'est une matrice dans la matrice? On ne sait pas. L'architecte, c'est vraiment ce genre de dieu qui vit un peu dans l'espace.
L'architecte, du coup, peut-être pour contextualiser, oui, c'est celui qui serait l'architecte de la matrice, qui aurait créé la matrice, et même d'autres matrices avant
c'est
celle-là.
Ça. Qui est, je crois, il dit c'est la septième matrice, un truc comme ça.
Ouais, au sixième.
Sixième matrice, oui. Septième, c'est du coup à la fin du 3. Mm. Mais oui, je trouve vraiment que c'est grandiloquent, ce discours sans cognita de l'architecte. Ça me fascine avec ses télés partout, etc. Et tu l'as dit, cette scène sur l'autoroute d'action est quand même impressionnante. Et j'ai repensé l'année dernière à cette scène quand j'ai vu Tenet.
Exactement.
Qui a une scène d'action sur l'autoroute, ouais, qui est beaucoup moins lisible, je trouve. Qui essaie de faire des trucs un peu original, mais...
Là, je pense que la référence est assez claire.
Est claire. Et oui, je trouve que c'est avant-gardiste. Et surtout, ils ont construit des portions d'autoroute, etc. pour la tournée. C'est passionnant, c'est un film dont j'ai regardé les making-of à l'époque, un peu comme The Dark Knight, même si c'est un film que j'aime beaucoup moins. Et même les costumes, Lucas, tu parlais des costumes un peu vieillots dans le 1, tu sens qu'ils couinent un peu, etc. Là, ça part dans des trucs encore plus grandiloquents. Là.
Ce manteau qui lui fait une cape quand il vole à la Superman. Enfin.
C'est Néo a désormais une cape de Superman, voilà, et aussi un peu un col de prêtre, quoi, ouais, parce que c'est un élu. Voilà, je trouve ça vraiment très plaisant, à part la scène de rave au début qui est un peu bizarre, on sait pas trop ce qu'elle fait là. Mais voilà, même le sauvetage de Trinity, où ça rend petit hommage à 2001, c'est d'espace, quand il va très vite, il y a du bien partout. Je trouve que, oui, c'est un film très plaisant, en fait, que j'aime bien, voilà, au final.
C'est vrai que la façon dont tu me le dis me fait un petit peu changer d'avis, mais
il m'avait fait le coup avant que je regarde le 2, où en fait, il m'avait dit, non mais tu verras, c'est comme Alien 2, en fait, finalement, c'est un côté un peu attachant, alors il faut savoir...
Je préfère Alien 1 que Alien
2. Alors, moi, je suis une grande fan d'Alien 2, pour le côté un peu, sueur, cliché, un peu de... tout ce qui se passe dans la rêve partie du coup Matrix Reloaded, mais je trouve Matrix Reloaded très chiant. En fait, vraiment, on en parlait un peu avant, mais j'ai eu le sentiment que j'avais vu le 3. Pendant longtemps, je pensais avoir vu le 3, et en fait, c'était que la seconde partie du 2.
Oui, mais en deux parties, finalement. Parce qu'à la fin du 2... Ah non, c'est pas de ça dont tu veux parler.
Non, je veux vraiment dire que j'avais vu que le 2.
Ah d'accord.
Et que j'étais persuadée que la première partie, tout se passait dans Sion, et ça c'était le
3, 2. Le 2.
Et qu'après, toute la question de sauver Trinity, pas sauver Trinity, etc., c'est dans le 3.
C'est pour ça que moi je te disais que le scénario pour moi là était très laborieux.
Et en fait, c'est assez lent. Et je trouve que il y a beaucoup de bonnes idées, notamment l'architecte et notamment le maître des clés. Oui, tout ce qui se fait aussi avec sa fille, c'est super intéressant. Enfin, l'aide de l'oracle qu'on n'a pas vu dans le premier, mais qui du coup arrive dans le deuxième et dans le 3. Et un personnage très intéressant, parce que c'est un personnage ambivalent. On comprend dans le 3 qu'il a été proche du Mérovingien à un moment. Et pour autant, je trouve que c'est un film qui subit les années 2000. C'est un film, Monica Bellucci a subi des années 2000 tout le long, enfin tout le monde subit. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose où c'est pas très bon. On comprend pas vraiment. En fait, il y a vraiment une envie, on le sent, de faire quelque chose de populaire. Et après, ça reviendra à des thématiques et des problématiques qu'on a maintenant service, du fan service, des choses comme ça. En fait, on est dans les prémices du fan service. On va avoir envie de parler de trucs qui ont plu dans le 1.
Je trouve que justement ça va. Non, justement, ça. C'est pas ce qu'attendaient les spectateurs vraiment de l'époque, ce qu'elle a fait.
Comme tu dis, il prend le contre-pied total.
Ouais, totalement. Les combats sont différents. Il y a moins de. Ça dit tout était faux. Genre vraiment, on s'en fout en fait de la matrice ou quoi, parce que ça n'a aucune importance.
Oui, mais tout en étant vraiment dans des scènes qui sont beaucoup plus marquantes et marquées. Par quelque chose qui est de l'ordre du fanservice, c'est-à-dire des meufs à poil, des gros guns et des trucs comme ça. Enfin, je trouve que c'est un peu... genre, à la fin, c'est lourd. Enfin, la scène où... Bon, alors, ça sera dans le 3, mais la scène où ils interviennent pour aller voir le Mérovingien dans la boîte, où c'est une boîte SM, enfin...
C'est encore le contre-pied, j'ai l'impression, du 2, que ça part dans tous les sens, mais ça, c'est plus le 3. Je trouve que le 2, vraiment, est un film qui se tient. Alors toi, Lucas, je sais que tu n'aimes pas voir les... Pour toi, un film, ça se voit d'un bloc, d'un seul. Je crois que le 2, tu as mis plusieurs fois à le voir parce qu'il te saoulait.
Ou le 2 et puis le 3 surtout. Non, parce que oui, autant le 1, j'ai fait mes réserves tout à l'heure, mais c'est quand même un film qui se tient et que j'ai apprécié. Enfin, j'étais content d'être allé au bout, on va dire. Alors que pour le 2 et le 3, j'étais frustré d'être allé au bout, mais
mon esprit complétiste me force à finir un film quand je le commence et à souffrir. Et bon, plus pour le 3, parce que le 2... En fait, le 2, je me souviens que de deux scènes. Je me souviens de rien, j'ai rien compris à ce que vous disiez. Mais je me souviens donc de la scène de course-poursuite à la fin avec la voiture, qui est pour coup, je l'ai trouvé interminable dans le mauvais sens. Alors que la scène de combat contre les Smiths, je l'ai trouvé interminable, mais dans un très bon sens.
C'est incroyable.
Ça ne s'arrête pas, je sais pas comment elle dure. T'as des petites pauses à des moments, t'as l'impression que c'est terminé, ça repart pour 10 minutes. Et il y a un truc, je sais pas, fascinant. Je sais même plus dans quel contexte cette bagarre arrive.
Bah, il parle à l'oracle, et d'un coup, il y a des Smiths qui arrivent. Et...
L'oracle, j'allais aux toilettes. Mais je sais pas, il y a une démesure. Alors, je sais pas à quel point les Wachowski se sont prises au sérieux avec cette scène. Je sais pas si elles se sont dit, si elles ont assumé ce côté un peu con.
Je pense que c'est assumé parce que tout leur cinéma est baigné dans ça. Hein.
Non, mais ce que je veux dire, c'est, tu vois, le fait que j'ai rigolé devant cette scène, un peu, je sais pas, malgré elle, ou je sais pas. En fait, je sais pas. Enfin, bref, c'est pas grave, hein, le résultat est là. J'aurais aimé que ça dure 2 heures, en fait. Que ce soit ça le film. Que ce soit Neo qui se batte contre. Il y a ce truc où Smith, quand il se bat, enfin, quand ces 1000 clones se battent, où son visage ne bouge jamais, et avec ses lunettes de soleil, et je sais pas. Ça me procure beaucoup de bonheur.
Bah, je pense que tu captes un peu ce qui me plaît dans ce 2. Pour moi, le 2, c'est que ça, c'est que des trucs.
Ah, ouais,
des concepts, genre sur le fil du rasoir, genre vraiment au bord du ridicule, genre sur l'amour qui sauve tout et tout. Mais vraiment, genre, tellement elle l'assume, en fait, ce truc de, ouais, bah, c'est l'amour qui sauve tout, et à la fin, bah, c'est Superman qui vole d'une montagne à travers des buildings qui cassent tous son passage. Et qui la sauve, quoi, et qui enlève la balle du ventre. Je trouve ça vraiment réussi. Le 3, du coup.
Bah, vas-y, tu veux.
Ah, bah non, bah, c'est non. Rapide.
Moi, justement, après cette grande déception du 2, je me suis dit, bon, peut-être que le 3 va le sauver. Et au début, j'ai cru que ça allait me sauver. Parce qu'au début, il y a des scènes intéressantes, visuellement, dans la mise en scène, le métro, enfin le train, métro. Ça, je trouve que dans la mise en scène et visuellement, c'est magnifique. On parlait du club, tu sais, avec le vestiaire, cette scène-là avec le vestiaire, ils doivent entrer, on n'a pas le droit aux armes, tu vois plein de mecs avec des grosses armes, des trucs. Ça aussi, j'ai trouvé que dans la mise en scène, et même esthétiquement, visuellement, j'ai trouvé ça intéressant. Et je me suis dit, cool, on retrouve un peu ce que j'avais aimé dans le premier, et on se débarrasse de ce que j'avais pas aimé dans le deuxième. Même au niveau du propos. Parce que là, je disais qu'au niveau du scénario, le 2 m'avait pas plu du tout. Neo qui est coincé entre les deux mondes, donc dans ce fameux métro là, dans ce train.
C'est passionnant ça.
Coincé entre les deux mondes, entre le monde des humains, le monde des machines. Il doit prendre un train pour revenir dans la matrice. Je me suis dit, le propos redevient intéressant et on est toujours dans l'univers qu'on avait en revanche pas perdu dans le 2. Mais après, arrive Zion. Donc, cette fameuse ville, dernier bastion, on va dire, des hommes qui sont sortis de la matrice, qui va être assiégée par l'armée des machines et les sentinelles programmées pour anéantir l'humanité. Et Zion, c'est 3/4 du film ensuite. Alors, tout ce que je vous ai dit là, c'était.
C'est, en fait.
Même pas 1/4 du film.
J'ai regardé le temps, ça ne dure pas si longtemps.
C'est 3/4 du film, Zion.
Moi aussi, dans mes souvenirs, c'est que ça le film. Mais la scène de Zion doit durer 25 minutes à tout casser.
Ah non, moi je te parle d'après, tout ce qui concerne.
La scène de guerre. Ouais. 25 minutes.
Non, ouais. Bah oui, mais moi je te parle de tout le reste, tout ce qui concerne après, tout ce qui a Zion comme enjeu, cette ville justement comme enjeu, et qui prend pour le coup les 3/4 du film. Et alors là, vraiment, je me suis dit, on n'est plus du tout dans l'univers de Matrix, on est dans Star Wars, ou on est dans un Avengers avant l'heure, je sais pas, mais pour moi on n'était plus dans Matrix. Et là, encore une fois, j'y ai retrouvé tous les défauts aussi du 2 en termes de scénario, en termes d'écriture. J'arrivais à anticiper les répliques et les scènes. Enfin, j'étais devant mon écran et j'arrivais à balancer la réplique. Une seconde après, elle arrive. Je me suis dit, mais c'est pas travaillé.
Justement, ça va vous surprendre, mais j'ai adoré le 3.
Mais je pense que c'est tellement un univers différent. Soit t'adores, soit tu...
Ça, ça ressort c'est Alien 2, quoi, les machines.
Ouais, c'est de la science-fiction, genre... Vraiment vénère, genre ils y vont pas par quatre chemins, enfin genre vraiment, elles y vont, mais genre vraiment il y a un truc de, ça prend un point A, on est parti, et puis après genre, la scène du métro, j'ai adoré.
Oui, mais genre, ça mais là, c'est superbe.
Mais la scène de fin, où ils sont dans leur petite navette, là, et genre on leur dit, non. Vous allez pas pouvoir y arriver, ils sont là, on y va quand même, avec Trinity en bagnole, et genre moi j'étais là, c'est tellement ridicule, à la fin. Tu comprends pas. Moi, je pense que de toute la trilogie, je n'ai pas compris l'intérêt de Smith. de si, qu'est-ce qu'il veut
Smith,
faire.
C'est un, en fait, c'est un programme de la Matrice qui est là pour éliminer Neo, les résistants, mais qui en a marre et qui veut lui partir de la Matrice. Du coup, il essaie de bouffer tout le monde dans la Matrice pour partir de la Matrice.
Surtout, c'est un genre de virus. C'est un programme un peu raté.
Mais c'est vrai que. À la fin, moi, je comprends pas. Quand il rentre dans Smith, mais Smith, il rentre dans Neo. Et vraiment, je sais pas, j'ai vraiment bien aimé, dans le sens où c'était tellement mauvais, mais mauvais jusqu'à la fin, quoi. Genre, il y avait pas de... En fait, je trouve que le défaut du 2, c'est qu'il a les prétentions du 1. Alors que le 3, il a plus aucune prétention. C'est parti, et du coup... En soi, c'est pas un mauvais film parce qu'il est cohérent. Enfin, à la fin, t'es pas déçu parce que tu t'attends pas à grand chose. Et
je m'attendais à rien et j'étais quand même déçu. Moi,
je suis pas déçu dans le sens où je suis là. Il y a une boucle, il y a un truc où c'est quand même une fin bouclée. C'est pas une fin où il s'arrête sur quelque chose de potentiellement c'était ouvert et tout. Et je sais pas, j'ai vraiment bien aimé dans le côté. Rouler des mécaniques, quoi. Genre vraiment, enfin, le moment où Nairobi elle prend la bagnole, là, vraiment, moi j'étais là, c'est rare.
C'est rare parce que la scène du métro, c'est aussi genre une scène qui m'a aussi marqué. Genre, il est entre les deux mondes, il peut pas grimper. C'est le Styx, évidemment. Et moi, dès la scène du L Club, quand je l'ai vu la première fois, quand je l'ai revu là, j'arrive pas, quoi. Même la scène du L Club, je trouve qu'il manque quand même, il manque déjà cet ingrédient. Qui fait la magie.
Dans la mise en scène, elle est assez réussie pour moi.
Mais tu vois,
l'esthétique, elle est.
La scène où il se mitraille dans l'immeuble du gouvernement, là, dans le premier, là, la scène où il saute partout, bah là, ils refont ça, mais tu sens qu'il manque un truc, quoi. C'est un peu rouillé. Même le L-Club, c'est trop bizarre, mais. En fait, on dirait un autre film qui vient s'insérer dans le film. Et surtout, Vision, genre, ça m'a toujours saoulé. Je crois que je l'avais revu avec un ami qui peut-être nous écoute dédicace à lui-même. On avait revu les deux films Matrix et je crois que le 3, genre, on avait accéléré. J'en avais pas regardé tout ce qui était quand il tire en l'air et tout. Je comprends que ça puisse plaire en soi. C'est pas dégueulasse hein, comme film d'action où il tire sur les méduses qui arrivent,
non, mais
etc.
C'est plus du Matrix tel qu'on le connaît.
C'est vraiment un film de
l'univers et l'imagerie Matrix tel qu'on la connaît. Là, on est à.
C'est pas ça qu'on a envie de voir, quoi. Du coup, ça a réussi le truc de déconstruire encore un truc déconstruit. Ou d'un moment, genre, arrêter, genre, je trouve ça beaucoup moins intéressant.
Là, vraiment, comment on est dans du Star Wars. Quand on voit les vaisseaux, tout ça, j'avais l'impression, je sais plus quelle scène c'est, le Faucon du Millennium qui est un petit peu. Qui essaie de s'insérer dans des endroits hyper étriqués, tout. C'est exactement ça. C'est dans le 6.
Non, mais c'est vraiment de la science-fiction, c'est-à-dire qu'on rentre.
Du Avengers avant l'heure, quand t'as la grosse bataille à la fin bourrée d'effets numériques et tout ça. C'est
lourd. On rentre vraiment dans quelque chose qui est un registre différent. Je pense que Matrix 1, en tout cas, peut pas vraiment être rangé dans la science-fiction. Parce que même si en fait il se revendique de Philip K. Dick et des choses comme ça, des grands auteurs de science-fiction. C'est quelque chose qui est vraiment ancré sur le réel et un réel qui est possible. Mais c'est de la science-fiction. Mais ce que je veux dire, c'est que le 3, il n'y a pas plus science-fiction. En fait, c'est-à-dire va retirer tout ce qui est philosophie, tout ce qui est.
Mais justement, on retire tout ce qui fait le sel de la science-fiction.
Oui, mais tout ce qui fait le sel de la science-fiction écrite, du récit de science-fiction, et non pas de la réalisation de science-fiction et des films de science-fiction. Ce que peut-être que tu n'aimes pas, Lucas, justement, c'est qu'en fait. En soi, la science-fiction maintenant, comme elle est vue, c'est des vaisseaux, de la guerre et
C'est très réducteur.
Oui, mais
quand même.
Dans maintenant, tu vois, enfin dans le.
C'est ta vision de la science-fiction, mais genre je trouve que vraiment. C'est pas...
Mais avant, il y a quelque chose qui est, enfin, vraiment très fort. On a fait Blade Runner, c'est quand même une puissance, mais c'est un récit de science-fiction. C'est-à-dire que ça se base sur des récits et en fait, il y a pas photo. Blade Runner et Matrix. En tout cas, le 1, c'est inspiré des nouvelles de Philip K. Dick, des nouvelles qui sont de l'ordre de la philosophie et de l'ordre de la philosophie de l'univers.
Mais Lucas parlait de Ad Astra tout à l'heure. C'est un film qui est très épuré et qui est pourtant de la science-fiction.
C'est des films qui reviennent, qui sont dans des registres qui, en fait, j'ai l'impression qu'en fait, il y a une différence entre la science-fiction qu'on aurait, notamment des Star Wars ou des choses comme ça, qui vont être des choses plus basiques et vraiment dans des vaisseaux où en fait, on va juste placer l'action. En dehors d'un monde réel et en fait pas vraiment avec une sémantique qui est de l'ordre du récit de science-fiction.
Et juste avant de te demander Lucas ce que tu retiens de ce film, juste donc, il y a cette scène du métro qui m'a marqué. Il y a un truc que j'ai toujours aimé dans Matrix 3, c'est la scène de combat à la fin contre les milliers d'agents Smith. Enfin, contre un agent Smith, c'est du Dragon Ball Z sur grand écran. Il n'y a pas d'autre mot. On sait qu'elles adorent
Mortal Kombat ou.
Ah, mais non,
ça fait penser à du jeu vidéo aussi, tu vois, Mortal Kombat.
Ouais, mais vraiment pour moi, c'est Dragon Ball Z où vraiment, genre, il y a des ondes de choc, il y a des immeubles qui explosent, ça va dans tous les sens et on sait que c'est. un univers qu'elles adorent parce qu'elles ont adapté Speed Racer que j'ai vu hier. Alors là, je pense que vous allez vous régaler en le voyant. Vous allez vous régaler. Lucas, je pense qu'il faut que tu regardes Speed Racer.
D'accord.
Tu vas adorer. Prends note. Speed Racer, c'est l'adaptation d'un manga des années, enfin d'un animé des années 70. Et là, pour le coup, elles ont pris le parti de faire comme si c'était un dessin animé, mais en images réelles. Au niveau montage, j'ai jamais vu ça, ça part dans tous les sens. Il y a des genres de cadres découpés de personnages qui parlent, qui passent au milieu de l'écran. C'est tout en numérique, mais c'est du numérique volontairement moche. Ça part dans tous les sens, c'est des courses de voitures, ça saute, ça tire, ça ne se voit pas du tout réaliste. Et là, elles vont vraiment au bout de ce truc, tu vois, la scène de combat d'Agent Smith, où il y a Sam Smith. Là, ça part, mais vraiment, c'est ça pendant 2 heures. Et après, c'est un film qui a été mal compris, parce que c'est un film, en fait, pour enfants, et qui rend fou les enfants, parce que c'est du sucre pendant 2 heures. Et je conseille, je pense, c'est un film que j'ai bien aimé, au final, mais je pense que, vraiment, vous n'allez pas être déçus.
Mais elles sont vraiment amatrices de coups de manga et d'animation, et on pourra parler, en fait, des animatrix. Du coup, qui sont les suites des Matrix en manga.
C'est entre ouais.
Enfin, les derniers seront après, en tout cas, sur les 6 Animatrix.
Mais du coup, ouais, c'est des animés.
Ces animés qui sont sortis en 2004, si je ne m'abuse. Il y a genre 6 histoires faites par des grands réalisateurs d'animés japonais qui parlent de, pas forcément après, mais avant, après, pendant, ces petits moments de Matrix, quoi.
Et elles ont supervisé ça
tout le temps, scénarisées, pas tous. Mais certains épisodes sont scénarisés par les Servachinki et en fait c'était un désir d'elle de créer en fait du coup des préquels ou des séquelles du coup un peu à l'univers, notamment par exemple l'enfant de la cuillère ou par exemple dans le 2 au tout début du 2 il y a un jeune homme qui dit à Neo merci de m'avoir sauvé et oui, on comprend qu'ils ont un lien etc,
mais on sait pas d'où il sort
ouais. sort. Moi j'ai regardé des scènes du 1 en me disant c'est trop chelou, c'est qui ce type. Et en fait, c'est un des épisodes des Animatrix.
Il y avait aussi le jeu vidéo Enter the Matrix et The Path of Neo, il y en avait 2. Ou pareil, il y avait même des bouts de films qui avaient été tournés sur le plateau de Matrix 2 et 3 qu'elles avaient mis dans ce jeu vidéo pour raconter une histoire. Et donc, Lucas, toi, que penses-tu de Matrix Révolution, car on t'a pas entendu pendant tout ce débat.
Alors, ma recommandation de ce mois-ci... non, ça me fait un peu peur parce que j'ai vu le film il y a une semaine et je ne comprends vraiment, encore une fois, rien à ce que vous dites. Si, je me souviens de la scène du métro, pour être tout à fait honnête, et c'est tout. Mais c'est vrai, je suis un peu méchant là, mais il y a au moins un truc qu'on peut pas reprocher aux Wachowski, c'est de pas adapter leur mise en scène à leur récit. Tu parlais de Rafik Djoumi, c'est ça? Oui. Voilà, c'est pour le 1, mais il te montre bien que le premier plan de Matrix, c'est littéralement la caméra qui entre dans un 0, le chiffre 0 oui. qui rentre dans le pixel, où on a vraiment l'impression d'accoucher avec dans la matrice. Et je trouve que c'est quand même un effort qui est répété dans les 3, malgré le fait que les 2 derniers ne sont pas forcément à la hauteur du premier. Voilà.
Et est-ce que tu aimes le cinéma des Sœurs Wachowski? Est-ce que tu connais?
Non, je ne connais pas. Je sais qu'elles ont fait Cloud Atlas, mais j'ai vu aucun film.
Et vous?
Moi, je n'avais pas vu Cloud Atlas, mais j'aimerais bien le regarder. Après, j'avais vu Sense8. Du coup les 2 saisons et l'épisode final et c'est vrai que c'est vraiment on retrouve en fait beaucoup de similitudes et je pense que Louis peut en parler aussi, mais c'est une très bonne série qui a souffert comme toute série de 2 saisons sur Netflix d'un bashing un peu Netflix quand ça plaît pas. Et voilà.
Non, ouais, globalement, je crois que c'est les Sœurs Wachowski qui ont fait V pour Vendetta aussi.
Elles l'ont écrit. Et je trouve que c'est un film nul. C'est un film qui est... c'est pas réalisé par elle, c'est réalisé par James McTague, qui est pas un grand réalisateur. Et je trouve que V pour Vendetta, justement, ça actualise en fait le comics d'Alan Moore, qui est excellent et qui est très sombre, très adapté à son époque, aux années 80, qui parle de Thatcher, etc. Là, ça parle de George Bush, etc. Mais je trouve qu'il y a un truc cheap et il y a pas cet amour de la mise en scène qu'il y a dans les Matrix, vu que c'est pas elle qui réalise du coup V pour Vendetta. Et je trouve que c'est assez dur. En plus, ça a été récupéré par les Anonymous, tout ça, le masque de fond. C'est un peu dur.
Mais sinon, j'ai vu Sense8 aussi, que j'avais beaucoup aimé comme Adeline, et qui, sur le principe, c'est pareil, c'est une histoire un petit peu mystérieuse. On a 8 personnes un peu dispersées aux 4 coins du monde qui vont d'un coup recevoir un don et être interconnectées, essayer de comprendre pourquoi, et ressentir toutes les mêmes émotions, et quelque chose qui les relie comme ça de façon très mystique. Et que... Ouais, qui résume bien finalement le cinéma et le propos des Sœurs Wachowski.
Mais je pense que vous aimerez justement Cloud Atlas, qui est ça pendant 3 heures en film, où il y a plein d'effets de montage, tous les acteurs jouent genre 6 ou 7 rôles différents. Et c'est un film que j'aime beaucoup, qui est pareil, est sur ce thème, l'amour, les gens, etc. Mais qui est, j'ai beaucoup aimé Cloud Atlas. Rapidement, donc Speed Racer, je vous conseille aussi parce que c'est un bonbon, c'est n'importe quoi, c'est incroyable. Elles avaient fait aussi Jupiter, le destin de l'univers, qui devait être le premier étape d'une grande franchise, qui était vraiment genre catastrophique, qui était coupée dans tous les sens. Ça a essayé d'être original, ça c'est un mérite, mais vraiment, je recommande pas. Et je recommanderai après leur premier film pendant les recommandations. Donc on va passer aux recommandations, mais juste avant, Louis, tu as voulu mettre un morceau qui te fait penser à Matrix.
Bah, qui me fait penser, parce que tout simplement la référence est assumée, c'est que Matrix, c'est, voilà, comme on l'a dit, comme on l'a compris, un univers et un imaginaire qui a marqué le cinéma. Mais pas que, aussi la musique, aussi le rap, et il y a notamment l'album de Lilo qui s'appelle Trinity, et qui est largement inspiré du film. Je vous propose d'en écouter un extrait.
Accès autorisé. Initialisation du programme Trinity.
Là, l'éléphant dans la maison, c'est toujours plus fort qu'il a raison. Dans toutes les télévisions, faut qu'une représentation, je suis en mission. Ils ont chaud, c'est pas la saison. Dans la cabine, pas de raison. Fais pas trop des comparaisons. Je ramène le flow, c'est la dernière livraison. Baby, si j'en ai, je vais pouvoir t'offrir ton sectionnage. Bien sûr que j'avais qu'on allait tout niquer, c'est qu'une question d'année. Tout est chicha, j'ai mis des lames de rasoir dans les shorts. J'ai même pas sorti mes cartes, ils ont déjà tous quitté la table. Oh merde.
Ouais, et puis c'est davantage donc dans les interludes de l'album qu'on retrouve des références directes au film, à Matrix, et que je vous invite du coup à écouter.
Il a aussi fait un court-métrage sur Mr. Anderson, si je ne m'abuse.
Exactement, oui, il est très très fan de la saga.
D'ailleurs, juste avant de passer en cours, est-ce que vous attendez du coup Matrix 4, car le trailer est sorti il y a 2 mois, est-ce que vous l'avez vu, est-ce que vous...
Oui, impatiemment, oui. J'attends que ça.
Bah, je me dis qu'adapté justement à toutes les technologies actuelles, ça peut être intéressant à voir.
Je pense que ça va être un film très complet qui va déconstruire beaucoup de choses sur Matrix et qui s'insère sur une fin un peu... Enfin, j'ai vraiment hâte de savoir ce qu'elles vont en faire de cet univers et les nouveaux acteurs et choses comme ça. Et bon, moi, je suis toujours...
Mais on retrouve Keanu avec les cheveux longs, cette fois.
Évidemment. Ouais, mais je pense que...
Pardon. Oui, vas-y.
Je pense que, en fait, c'est le... ça sera pas non plus du fanservice, ça sera la continuité vraiment de la trilogie. Donc on vous conseille de regarder cette bande-annonce où il y a à la fois des images du premier, des fois qui sont un peu subliminales. C'est Neo, enfin du coup Monsieur Anderson, qui est en thérapie chez des psys, qui pense à Matrix mais qui pense que c'était de la paranoïa. Ça a l'air, je pense que ça sera un sacré délire. Je m'en guide de voir ça, ça sort le 15 décembre, je crois. Donc est-ce que vous avez des petits recos avant de finir cette émission d'une heure et demie, donc comme toutes les émissions à partir de maintenant?
Oui, moi je vous recommande De la morte, de l'amore. Désolé pour l'accent italien, parce que oui, c'est un film qui nous vient d'Italie. Italie qui rencontrera d'ailleurs demain la Belgique en petite finale, parce que je rappelle que la Belgique a perdu contre la France. Et oui, c'est un film de Michele Soavi qui sort en 94. Et c'est vraiment une... Ça vous dit rien, j'imagine. De la morte, de la mort. Mais c'est normal, enfin, non plus ça me disait rien. C'est une surprise totale que j'ai découverte sur Shadows. C'est une plateforme française qui est spécialisée dans le cinéma d'horreur fantastique, que je recommande, qui est sympathique. Et là, c'est une comédie d'horreur fantastique avec Rupert Everett, qui joue un fossoyeur, qui donc enterre des corps, qui au bout de 7 jours se réveille et donc deviennent des zombies. Donc a priori, une histoire un peu banale. Mais en fait, c'est évidemment par l'ambiance que le film se démarque. Il y a vraiment une ambiance géniale. C'est un petit village italien, tout le monde se connaît, il a un acolyte qui ne sait pas parler, qui dit que Nia. Et si je le choisis aujourd'hui, au-delà du fait de l'avoir adoré ce film, c'est aussi parce qu'on peut le rapprocher de Matrix, puisqu'il y a une vraie réflexion philosophique qui apparaît surtout dans le dernier quart du film et qui en fait est la même que Matrix, à savoir y a-t-il un monde derrière le monde, avec un dernier plan vraiment mais magnifique. Sauf que évidemment
là j'ai aimé parce que le film s'arrête au bon moment, le film s'arrête là où Matrix commence, il n'y a pas toute la recherche, juste on nous suggère qu'il y a un monde derrière le monde, ou un monde qui s'arrête, et c'est ça que j'ai adoré, il y a un charme fou, vraiment, je répète, et avec des plans, et là aussi un cadrage très fort, et une actrice française qui s'appelle Justine Rio, qui je sais pas, que j'ai trouvé assez assez phénoménal dedans, donc voilà, ça s'appelle De la morte de la mort, et je recommande fortement.
Moi je vais recommander un film à l'affiche et qui le sera je pense toujours au moment où l'émission sortira, c'est Stillwater qu'on allait voir ensemble avec Nicolas et Adeline, et vous connaissez mon attachement pour la cité phocéenne et là je trouve que l'image de la ville est très bien rendue, à la fois dans ses bons comme dans ses moins bons versants. Je trouve que les personnages sont très bien écrits, très travaillés, très crédibles. Matt Damon, tout en réserve, joue très très bien son personnage. Un film que globalement j'ai bien aimé, donc je vous conseille d'aller prendre votre place.
Moi ce sera pas un film que je vais conseiller, mais c'est une exposition de Vivienne Meyer. C'est une exposition au musée du Luxembourg. Et alors je sais pas si vous connaissez cette photographe, mais c'est une photographe du réel, une photographe qui a été découverte sur le tard puisqu'elle est découverte à titre posthume. Et il y a un documentaire sur elle qu'on peut regarder qui s'appelle
Finding Vivienne Meyer.
Exactement.
Histoire d'un regard ou c'est autre chose?
Non, autre chose.
D'accord.
Complètement.
Et du coup, c'est le réalisateur qui a trouvé les boîtes du coup, de son box à Chicago, avec tous les négatifs, et qui après a mené une enquête pour savoir qui était cette personne, etc. L'expo est pas mal, elle est assez décevante d'un point de vue historique parce qu'on n'a pas peu d'ancrage. Mais pour autant, en fait, c'est vraiment une chance de pouvoir voir ses œuvres qui, je pense, auraient manqué à la photographie si elles n'avaient pas existé.
Donc, je ne sais plus jusqu'à quand c'est, mais c'est au musée du Luxembourg. Donc
jusqu'en janvier.
Non, d'ailleurs, en parlant d'exposition, et pour revenir aux arts martiaux de Matrix, en ce moment, au musée Cabranly, il y a une expo sur les arts martiaux qui a l'air géniale.
Oui,
c'est une affiche magnifique.
Et moi, Nico, rapidement, je recommanderais donc Bound, qui est le premier film des Sarah Wachowski. Tout leur cinéma est déjà là, c'est un thriller haletant, c'est juste en huis clos. Il y a des plans un peu assez genre bigarrés, c'est excellent, je recommande vraiment. Et Speed Racer, qui est les Wachowski à la lumière, le cinéma de Wachowski à la lumière, je sais plus le sous-titre, mais c'est un livre de Julien Abadi, qui est très bien écrit, c'est apparemment dans tous les sens, un peu comme Rafik Djoumi sur Matrix. C'est un essai de 250 pages sur un film qui est un film un peu pour enfants, quoi. Mais c'est incroyable, ça parle de la vitesse dans le cinéma, dans la société, ça va dans plein de références historiques, philosophiques, c'est très poussé. Et on aimerait bien en fait avoir plus de livres comme celui-ci qui se fixent sur un film et qui en parlent pendant 250 pages. Voilà. Et ben c'est déjà fini. Tu parlais de Vivienne Meyer, nous en reparlerons dans Histoire d'un regard, si je ne m'abuse.
Non,
du tout. D'accord, je n'ai pas encore vu ce film.
Attention, on se méprise, mais c'est une bonne façon de vanter notre prochaine émission.
Exactement. Qui
sera sur la SCAM en partenariat. Sur le festival du documentaire. De
les étoiles du documentaire, oui.
Les étoiles.
Ça sera donc sera un épisode hors série qui sera diffusé avant notre prochain épisode. Donc on se retrouve le samedi 30 octobre à 22h pour un épisode hors série avec le festival des étoiles du documentaire de la SCAM. Puis le 14 novembre, donc 15 jours après, pour un épisode régulier qui parlera de Grizzly Man de Werner Herzog. C'est un documentaire. Nous sommes donc toujours disponibles sur Spotify et toutes les plateformes de podcast, ainsi que sur Instagram. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal.
À très vite.
À très vite.